à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix de Grande-Bretagne. Qui a vu la deuxième victoire de Mark Webber sur le sec? Eh oui, on ne s'y attendait pas, mais il y avait eu de beau temps dimanche à Silverstone. Pour m'accompagner, comme d'habitude, bonsoir Dino.
Bonsoir Shinji.
Ça va?
Ça va.
Qui nous accompagne cette semaine, Dino?
C'est Germain qui nous accueille, célèbre participant au concours Top Position. Bonsoir Germain.
Salut Shinji, salut Dino. Non, mais vous aurez l'occasion de faire des jeux de mots sur mon prénom.
Depuis tout à l'heure, je réfléchis avec Paris Saint-Germain et tout.
On lui a pas demandé s'il était allemand, pas de blague sur Paris Saint-Germain, non.
Ah, c'est ballot, j'ai des origines alsaciennes, donc
Ah, raté.
Non, mais il est normand, on est un peu cousin germain.
Oui.
Ça y est, j'ai épuisé le quota de la soirée.
C'est bon. Bravo. Alors messieurs, comme d'habitude, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix?
Eh ben, je m'attendais pas à ce que c'est qu'il se dispute sur le sec, c'est surprenant.
Et moi j'ai beaucoup aimé. C'est typiquement le genre de Grand Prix que j'aime, donc.
Mais c'était pas mal,
c'est
la fin.
Sûr, c'est pas c'était aussi pas... excitant que ce qu'on a eu ces derniers.
Non, c'était pas fou, c'est quoi mois. Dire, ça.
Mais
pas.
C'était un Grand Prix,
Il y a eu du suspense, quand même.
Voilà, non, mais voilà, il y a eu du suspense, il y a eu une vraie course.
Ça s'est beaucoup joué à la stratégie.
Ah ouais.
Oui. Si ça se trouve, on a quand même raté un Grand Prix extraordinaire. Vous imaginez s'il avait plu, ce qui serait passé?
Oh non, on s'en branle. Non, sincèrement, j'aime pas la pluie.
Et pourtant, tu sais que chez nous.
Oui, mais non.
Vénard, oui, moi non. Je rêve de chaud.
Mais nous, il fait très beau.
Mais oui.
Moi, je trouve que pour la Normandie, aujourd'hui, il fait très beau.
Ouais.
Le ciel est gris clair, le plafond est à moitié bas, les gouttes font moins de 2 mm. C'est bien.
C'est bien. C'est parfait. Et donc, messieurs, dimanche, nous étions le 8 juillet.
Oh, là. Je suis désolé, Germain. J'essaye, à chaque fois, j'essaye de dire.
Mais faut t'interdire de Wikipédia, là.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Donc, messieurs, je rappelle le concept de l'éphéméride inutile. Je vous propose un chiffre en rapport avec quelque chose qui s'est passé, donc le même jour que le Grand Prix. Et le chiffre de la semaine, notez-le bien, c'est 11 628.
11 628. C'est un code postal?
Sans doute, mais ce n'est pas ce qui nous concerne ce soir.
C'est la somme d'argent que j'ai sur mon compte bancaire que j'ai pas?
Peut-être, mais ce n'est
pas. T'es bizarre cette phrase.
Oui, je sais.
Mais ce n'est pas ça.
C'est le nombre de spectateurs qui ont été remboursés à Silverstone?
Non, espérons que ça soit plus, mais non.
Est-ce que c'est une durée, Shinji?
Non.
C'est une somme d'argent?
Non.
Est-ce que c'est un nombre de choses?
Oui.
Un nombre d'objets concrets qu'on peut toucher avec les doigts?
Oui.
Avec les pieds?
Oui.
Avec le nez?
Oui.
Avec... Oh, j'aime bien le oui.
C'est...
Le oui qui... Ouh, ça a rapport avec le nez.
C'est pas le prix d'une paire de lunettes?
Peut-être, ou... mais je connais pas ton opticien, donc...
Non plus.
Chez moi, c'est moins cher, en tout cas.
Je sais pas, peut-être que je...
Même avant la mutuelle. Non.
Le prix d'un casque?
Non, c'est pas un prix.
C'est pas un prix.
Oh, dommage.
Puis ça a pas de rapport avec la F1.
C'est, ça a pas
non,
rapport
avec... Non, le mec qui découvre l'édition, mais... Ah, là, là.
Non, on peut pas dire que ça a un rapport avec la F1.
Si ça a un rapport avec le Roi Lion, je me barre.
Non, ça a pas de rapport avec le Roi Lion.
Donc c'est un nombre, c'est des objets qu'on peut toucher. C'est des objets inventés par l'homme?
Oui.
Inventé par la femme?
Peut-être.
C'est un objet récent?
Oui.
Un objet du quotidien?
Non.
Un objet qu'on utilise une fois tous les deux jours?
C'est pas courant, on va dire. Mais, sous certaines formes, ça peut être courant.
Le prix... Non, pas le prix, ça peut être un prix. Désolé.
Ouais, non, mais il fait Germain, il fait une fixette sur le podium.
C'est fou.
Voilà,
c'est le nouveau Bernie, c'est pour ça.
Là, tu postules, en fait, c'est ça?
Oui, je vais remplacer Papy Bernie.
Oh, il l'appelle Papy. Nous, on l'appelle encore Tonton. Ah. Ça va, c'est notre génération.
Je suis un petit jeune, moi.
Voilà, c'est... Alors, attends, que je réfléchisse. Le SAV de la F1, troisième jour. Eh oui, ça fait 3 jours qu'on cherche sa question, là, son chiffre. 11 millions... Non, 11 628. Est-ce que c'est un code postal?
Non, tu l'as déjà inventé.
C'était il y a 3 jours, Shinji, je me rappelle plus.
Avec une orteguette.
Donc c'est quelque chose qu'on peut trouver sous différentes formes.
Que tu peux mettre sur ton nez.
Enfin, plus ou moins, c'est toujours la même forme, mais ça peut être de plusieurs façons. Plutôt, ça peut être à plusieurs endroits. C'est un élément qui est pas tout seul, en fait.
Ok. Ok, donc... C'est pas un objet du quotidien. Est-ce que c'est un objet que moi ou Germain, on pourrait utiliser? Enfin, Germain ou moi.
Seul, non, mais sur certaines choses, oui.
Alors là...
C'est un composant d'un objet qu'on utilise au quotidien?
Qu'on peut trouver.
Attends, c'est un composant d'un objet qu'on peut utiliser au quotidien?
Oui.
Ça a été une révolution ou pas?
Je dirais non.
C'est...
Cinquième. Dino a retrouvé Germain.
C'est
un objet.
En fait, donc ce composant fait partie d'un autre objet. Si vous ne trouvez pas ce composant-là, essayez de trouver l'objet sur lequel est ce composant.
C'est un composant qu'on retrouve tout le temps sur le même objet.
Sur une voiture?
Alors, c'est pas sur une voiture. Non, c'est pas quelque chose qu'on retrouve tout le temps sur cet objet.
C'est un machin qui roule?
Ça peut rouler.
Un aspirateur?
C'est pas un aspirateur.
C'est un appareil électroménager.
Non, et l'objet que vous pouvez chercher, qui est lié donc au chiffre, n'est pas un objet commun. Ou pas un objet courant, plutôt.
Mais bien sûr, c'est évident!
Mais oui, c'est ça, voilà, bravo Germain!
Posez des questions!
Bravo Germain!
Posez des questions!
Attends, ça... Un truc. C'est un objet unique ou c'est un objet qu'on pourrait utiliser quand même?
Dans sa généralité, c'est un objet que vous pouvez utiliser.
Dans sa généralité.
Bah, c'est-à-dire que celui qui est concerné, il est unique. Mais sinon, l'objet en général, oui, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser.
Attends, que je comprenne bien. L'objet où il y a le composant qu'on recherche, lui, il est unique.
Oui.
Généralement, on peut avoir le même objet.
Il y en a deux. Tu vois, il y en a que deux. Voilà.
D'accord, donc l'objet qu'on cherche avec le composant qu'on cherche, il est sur ces deux objets. Mais on peut aussi retrouver ces deux objets sans le composant au quotidien.
Oui, c'est-à-dire que le composant, vous pouvez le trouver au quotidien. L'objet, hein, c'est pas forcément au quotidien, mais il est courant.
C'est bizarre, mais...
Je crois qu'on comprend beaucoup plus les réponses techniques de Gus Gus.
Là, j'ai des drôles de pensées.
Quand
là,
vous aurez la réponse, vous allez voir, tout est logique, complètement logique.
Ça concerne un meuble?
Non.
Dommage.
Est-ce que c'est une invention récente?
Non.
C'est en bois?
Celui qui nous concerne, non.
Mais en général, c'est en bois.
Ah non.
C'est en plastique?
Ça peut être en plastique.
Oui, c'est en fer?
Il peut y avoir du plastique, il peut y avoir du fer.
Il y a plusieurs matériaux?
Oui.
Un ordinateur?
Non.
Oh.
Un instrument de musique?
Non.
Un fauteuil roulant?
Non. Non, j'ai dit, c'est pas sa fonction première.
Ah, je sais, c'est le prix du fauteuil roulant de Frank Williams.
Mais arrête avec le pognon, toi. Oh.
C'est vrai,
argent,
c'est
pas... argent. Donc attends, 11 628, là.
Oui.
C'est le nombre de composants.
Voilà. Il y a un truc qui est à 11 628 exemplaires sur un objet.
Et qui forme un objet... Genre, par exemple, un Lego qui servirait à faire un objet... Il y aurait 11 628 Lego qui serviraient à faire un objet du quotidien.
Pas exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ces 11 628 trucs.
Ok.
Ça concerne des molécules?
D'une certaine façon, oui.
D'un côté, tout est composé de molécules.
Oui.
Est-ce que ça a une couleur spécifique?
Souvent, oui.
Vert?
Non.
Bleu?
Bleu?
Oui, plutôt dans les bleus.
Plutôt dans les bleus. Je dirais, je pose des questions à la con, j'ai même pas la réponse. C'est censé être un indice, mais je me noie sous un truc. Alors le truc est bleu. Bon, alors.
Qu'est-ce qui pourrait être bleu?
Est-ce que c'est ludique?
Non.
Ça concerne les schtroumpfs?
Non.
Est-ce que ça pourrait se manger?
Non, vaut mieux pas même.
Ah, ça c'est toxique.
Je pense plutôt, oui.
Une arme à pharmacie?
Non.
On est bien d'accord que l'objet qui constitue de gros objets, à la base, il a une utilité propre.
Oui, c'est un objet courant, c'est juste que là, il y en a une version particulière, qui comprend ces 11 628 composants.
C'est un truc qui est connu?
Oui, je peux même vous dire, ça concerne un événement assez récent, qui date de 2010.
Bah, y a plein de trucs qui sont passés en 2010.
Un événement sportif?
Non.
Fait divers?
Non, on peut pas qualifier ça de fait divers.
Ça s'est passé en France?
Non.
En Europe?
Oui.
Allemagne?
Non.
Royaume-Uni?
Angleterre?
Non. Non.
Italie?
Non.
Espagne?
Non.
Andorre?
Portugal?
Non, non.
Roumanie?
Non.
Monaco?
Non.
Russie?
Non.
Chypre?
Non.
États-Unis? Ah non, merci, c'est bon.
Irlande?
Non.
Norvège, Finlande,
non.
Pays-Bas,
non.
Islande,
non.
Belgique,
non.
Luxembourg,
Autriche,
non.
Suisse,
oui.
Ah, c'est Suisse. Ah, c'est du chocolat.
C'est des montres.
C'est des chocolats bleus.
Ça concerne des montres.
Ça ne concerne pas des montres, ça ne concerne pas le chocolat.
Oh. Ouais, alors, en Suisse, tu peux parler pognon, tu vois. Les gros clichés. Alors, en Suisse, c'est chocolat, montre et pognon.
Qu'est-ce qu'il y a en Suisse?
Il n'y avait pas Mike
Schumacher. Est-ce que c'est un Johnny en kit?
Non.
On va essayer.
Une poupée gonflable Mike Schumacher?
Non.
Qu'est-ce que tu veux faire avec ce truc-là? c'est, je vois pas l'intérêt.
On sait jamais. Est-ce qu'il y a un pilote qui est concerné dedans?
Oui!
Il y a un pilote dedans?
Oui!
C'est pas un moyen de transport?
Si!
Si. Attends, c'est un moyen de transport?
Oui!
Mais tout à l'heure, t'as pas posé la question, Germain?
Oui!
Non, vous m'avez demandé si ça roulait, je vous ai dit non, c'est pas la fonction première, mais ça peut rouler.
Bah, c'est un avion!
C'est un avion!
Bah, un avion, ça roule à un moment donné!
J'ai pas dit que ça roulait pas, j'ai dit que c'était pas sa fonction première!
Oh là là, ça fait
un avion, c'est pas fait pour rouler.
Un avion qui est fait en quoi? En sucre?
Non.
Ah, c'est pas bleu.
En chocolat?
Non.
Mais ils volent vraiment?
Ils volent.
Vaut mieux.
Ah, justement, c'est ça qui est génial, c'est qu'ils volent.
C'est cool.
En Lego? En...
Non.
Bah, t'as modelé?
En Playmobil? En...
Non, je peux même te dire, il est en matériaux composites, l'avion.
Attends, il est en matériaux composites, mais tu nous as dit qu'il y avait 11600 quelques pièces.
Oui, mais il n'y a pas que ce que je t'ai dit, que ça, les 11628, c'était pas tout l'avion, tout l'élément.
C'est juste la cargaison de l'avion.
Non, c'est pas la cargaison.
Et ça concerne le...
C'est des batteries.
Ça concerne
non,
le système
c'est
électrique.
Pas ça.
Des piles.
C'est pas les piles.
des batteries, des piles.
Des boutons. Ouais,
non.
Des dynamos.
Non.
Des hôtesses.
Des centrales nucléaires.
Non.
Des centrales de pétrole, des centrales à gaz, des centrales solaires, des je sais pas.
Plus simplement.
Des panneaux solaires.
Exactement.
Ah. Bien joué.
On va parler du Solar Impulse.
Ah oui, d'accord.
Voilà, c'est le projet d'avion solaire entrepris à l'initiative de Bertrand Piccard, hein, celui qui avait fait le tour du monde en ballon, et André Borschberg à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Il vise à construire puis à faire voler de nuit comme de jour, sans carburant ni émissions polluantes, un avion monoplace à moteur électrique alimenté uniquement par l'énergie solaire. Et donc pour cela, il est équipé de 11628 cellules photovoltaïques. C'est pour ça que souvent c'est bleu, c'est pour ça que parfois vous pouvez en trouver dans des produits communs, par exemple des calculatrices, tu sais qui ont des cellules photovoltaïques, les calculatrices, bah oui, c'est pour ça que
oui,
c'est grand sans être, voilà. Donc c'est un projet qui date de 1999, donc avec les premières réflexions de Bertrand Piccard, il rencontre André Borschberg en 2003, puis il développe le concept jusqu'en 2006. Entre 2007 et 2008, ils construisent et donc fabriquent ce premier avion immatriculé HBSIA. Et donc, du 7 au 8 juillet 2010, il a fait son premier vrai vol de 26 heures et 9 minutes sans interruption à une vitesse moyenne de 23 nœuds et qui inclut donc une nuit entière. Alors, faut noter que depuis, donc, il y a un deuxième avion qui a été créé. C'est pour ça qu'il n'y en a que deux, hein, pour l'instant. Il y a eu un premier vol international entre Payerne en Suisse et Bruxelles en mai 2011.
Donc, mais il y a des passagers dedans?
Mais il n'y en a qu'un.
Bah oui, c'est un avion monoplace.
C'est un avion monoplace. Donc il a parcouru 630 km durant 13 heures à une moyenne de 50 km/h. Puis ensuite, il est parti au Salon international du Bourget, puisqu'il était invité au mois de juin de la même année. Hein. Donc là encore, 16 heures de vol pour faire Bruxelles-Paris. Puis ensuite, début 2012...
C'est quand même long, hein. 16 heures de vol Bruxelles-Paris, le mec il aurait pris le TGV, c'est ouais. Plus rapide.
Et je me demande comment...
Franchement, je trouve que les mecs, ils ont dépensé un peu du pognon pour vraiment perdre du temps.
Mais non, comment ça fait de se faire dépasser par les canards?
Le budget du projet est quand même de 100 millions de francs suisses, c'est quand même 68 millions d'euros. En février 2012, il y a eu un vol de 72 heures dans un simulateur, hein, parce qu'ils veulent préparer un tour du monde pour 2014.
Bonne chance.
Et là, en mai et juin, ils ont fait le chemin Payerne-Madrid, puis Madrid-Rabat et Rabat-Ouarzazate, hein, en plusieurs étapes. Et donc, leur objectif, c'est en 2014 de faire un tour du monde en plusieurs étapes avec cet avion.
C'est de la
qui fait zéro émission, qui ne pollue pas, qui marche uniquement à l'énergie solaire.
C'est vrai que c'est con, c'est de la triche. Pourquoi faire plusieurs étapes? Ils ont qu'à faire le tour du monde sans s'arrêter.
Bah oui.
Il est solaire, il est indépendant.
Oui, mais il n'y a qu'une place.
Et alors?
Voilà. Bah, ils estiment que un type tout seul, il peut rester conscient que 4-5 jours. Mais il faut savoir que leur objectif, c'est, ils espèrent en fait que la technologie des batteries s'améliore pour réduire la taille des batteries et permettre de construire un modèle biplace qui permettrait de faire le vol sans escale.
Ouais.
Ils y ont pensé. Mais voilà, faut être à deux.
Parce que comme il sera plus lourd l'avion, il tombera.
Bah non, c'est pour ça qu'ils attendent que le poids des batteries baisse, c'est pour compenser. Là, pour l'instant, c'est trop lourd. Donc, il a une envergure de 63 mètres, avec une longueur de 21 mètres. Il pèse 1 tonne 6.
Ouf, pas mal.
Et il est motorisé.
Attends, et pour 1 tonne 6, ils nous font chier pour un mec de 70 kilos. Il pouvait pas mettre un deuxième mec.
Il est
ça aurait fait 1 tonne 6, 1 tonne 67, tu vois. Alors, 1 tonne 67, on peut pas, c'est trop lourd.
Et il est motorisé par 4 moteurs électriques de 10 chevaux chacun.
Oh, 10 chevaux.
Ça fait 40 chevaux, ça va?
Voilà, pour vitesse moyenne estimée à 70 km/h. Et donc, comme j'ai dit, hein, donc il est fait en matériaux composites, fibres de carbone avec structure nid d'abeille. Voilà, c'est un défi technologique.
Ouais, ouais.
Tu sais, même le coup avec les batteries, ça pourrait avoir des applications en F1, ces conneries-là.
Ouais, comme ça, les F1 pourront faire Paris-Bruxelles en 16 heures.
Mais non, il pourrait y avoir des batteries plus petites.
Non, mais...
Record du tour, à 5h12 pour faire un tour à Spa.
Ouais, mais non, mais ça va pas marcher à Spa.
Le but, c'est...
Le soleil à Spa.
Ah oui, c'est vrai. Non, mais tu chercheras la batterie avant, c'est pas grave.
Donc, il charge le jour pour pouvoir continuer à voler la nuit. Et les batteries, elles, toutes seules, font 400 kilos, donc un quart de la masse totale de l'avion.
Voilà, bah, tu vois.
C'est qu'un détail.
C'est beau, tu vois, c'est un magnifique défi technologique. Et sinon, en F1, eh ben, y a trois dates hein, qui sont notables pour la F1. C'est trois Grands Prix, dont deux Grands Prix de France. Il y a eu le Grand Prix de France 1962, qui a marqué la première victoire de Dan Gurney, grand nom du sport automobile américain, qui a même été propriétaire d'écurie en F1, hein, Eagle.
Bah, Eagle, non.
Tout
ouais,
à fait.
D'ailleurs, il a encore actuellement un rôle dans une écurie en endurance.
Oui, parce qu'il y a d'ailleurs son fils qui roule en endurance, je crois.
Oui, Alex.
Voilà.
Sinon, il y a aussi le Grand Prix de France 1990. Et Dino, sais-tu pourquoi il est remarquable, le Grand Prix de France 1990?
C'est le premier
Manicourt. Non, c'est plutôt le dernier au Castellet.
Non, c'est Manicourt, c'est 91. C'est Daniel Castellet, ouais.
Oh. Ouais. Mais il y a autre chose.
Bah, c'est pas un podium d'Alésie ou un tournant de genre
non, c'est le premier Grand Prix d'Alésie. Ah non, pas en 90, non, c'est en 89.
Non, c'est 89, premier Grand Prix, mais justement Castellet.
Question podium, oui. C'était le troisième et dernier podium d'Yvan Capelli.
Bah, c'est pas la dernière victoire d'un Français au Grand Prix de France?
Non,
Non, mais en effet, c'est un Français qui a gagné. C'était Prost. C'était Prost.
Incroyable.
Qu'est-ce que ça de particulier, celui-là?
C'est pas extraordinaire, mais on va dire que c'est un beau chiffre.
90, c'est le 500e Grand Prix, le 600e.
Non, mais c'est dans cet ordre d'idées.
Le 400e.
Non, mais ça concerne le fait qu'ils aient gagné.
C'est
Ferrari. Mm. La 100e victoire de Ferrari.
Exactement, c'était la 100e victoire. Et sinon, ce jour-ci...
Oh, je suis ému. Je viens d'apprendre que Ferrari, ils avaient au moins 100 victoires. Oui.
Il y a aussi le Grand Prix des États-Unis à Dallas, 1984, donc, qui a été gagné par Keke Rosberg, mais qui est surtout historique pour une image, c'est celle de Nigel Mansell.
Ouais, il a poussé sa voiture.
Voilà, parce que autant 8 juillet 2012, bon, il a pas plu, mais ça a été week-end pluvieux. Ce week-end-là à Dallas, c'était tout le contraire. Ça a été une chaleur incroyable. Et en effet, oui, il a poussé sa voiture pour la faire passer la ligne. Et il a eu un malaise.
Et en plus, il devait la gagner normalement la course.
Oui, il a eu un pépin tout à la fin. C'est pour ça qu'il a poussé. Il a poussé, littéralement poussé la voiture pour l'amener sur la ligne.
C'était une Lotus.
Tout à fait. Donc voilà, c'était tout pour l'éphéméride, Dino.
Bravo, Shinji. Un bel éphéméride.
Tu vois, on a même parlé de Ferrari. Tu vois, tu devrais être content, on a parlé de Ferrari.
Ouais, non, mais on a tellement été long, Shinji, que... voilà, je suis déçu de notre performance. Bon, ça va, on n'a pas marqué de points, là, donc ça va.
Oui, bah encore.
Mais tu vois, je m'inquiète pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, il y a un mag, il faut qu'on...
Promis, je ferai pas de trucs sur les cellules photovoltaïques. Et Dino, c'est l'heure de l'invité.
Oui, c'est l'heure de gloire, Shinji.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Alors Germain, tu le sais, dans cette émission, nous ne pensons pas qu'à nous. Et donc c'est l'heure de gloire de l'invité, c'est ton heure, ton quart d'heure de gloire.
Merci.
Enfin, là, après le chiffre de Shinji, si ça peut être tes 5 minutes de gloire, ça serait bien. Mais si jamais tu veux faire un quart d'heure, tu fais un quart d'heure, c'est pas grave.
Je peux tenir, enfin, je vais essayer.
Et donc, on va commencer, tu le sais, par le...
Pour et pas pour.
Donc, le concept est simple, hein. Je te donne des phrases,
oui.
Et je réponds qui abordent des thèmes différents de l'actualité. Tu me dis si tu es pour ou pas pour. Et à la fin, tu pourras revenir sur 3 de ces thèmes au choix. Dont un thème passionnant sur les moules frites.
Ah, ça m'intéresse.
Non, je déconne, Cindy, non. J'ai trouvé plus drôle. Alors, es-tu pour ou pas pour Lewis Hamilton chez Williams?
Pour.
Pour ou pas pour les essais aérodynamiques en ligne droite?
Pas pour.
Pour ou pas pour la prolongation de Mark Webber chez Red Bull?
Pour.
Pour ou pas pour l'extension du contrat du Grand Prix de Belgique?
Pour.
Pour ou pas pour le Hungaroring?
Pour.
Victoire. Pour ou pas pour la nomination de Gilles Boulot à la tête du JT de TF1?
Je le connais pas. Y a pas le choix avec. Je m'en fous.
Non.
Dommage.
T'es obligé de choisir.
Pour alors.
Ah, il est pour. Ouais, je préfère franchement Laurent de la.
Je le connais pas. C'est.
Mais personne ne le connaît, Gilles Boulot.
C'est ça qui est génial.
Pour ou pas pour les essais jeunes à Silverstone?
Pour.
Pour ou pas pour une révision du système de pénalité?
Pour.
Pour ou pas pour un Grand Prix de Formule 1 à Londres?
Pas pour.
Et enfin, pour ou pas pour la réaction de Sébastien Vettel après son abandon à Valence?
Là, je sais pas, puisque ça regarde que lui. Bah, pour.
Et c'est fini. Et dis donc, on a un record de pour, je te dis.
Combien?
Puisqu'il y a 8 pour 2 pas pour. Les 2 pas pour, ce sont les essais aérodynamiques en ligne droite et la Formule 1, le Grand Prix de Formule 1 à Londres. À noter donc que tu es pour la nomination de Gilles Boulot à la tête du
GTT. Bah, je le connais pas, je vais pas être méchant avec lui.
Sinon, tu veux revenir sur 3 thèmes au choix?
Bah, les essais aérodynamiques en ligne droite.
Oui.
Donc, je suis contre puisque. Parce que moi, j'étais contre la suppression des essais privés. Donc, s'il n'y avait pas eu cette suppression de la règle, elle aurait tourné sur un vrai circuit, la Maria de Villota, et cet accident lui serait jamais arrivé.
Bah, ça dépend, il y a des circuits non plus qui sont pas très sûrs.
Oui, mais ça m'étonnerait qu'il y ait un camion au milieu du circuit quand même, ni dans les stands.
Non, voilà, le camion était dans les stands.
N'en parle pas.
Au milieu du circuit,
parle pas, il y avait... Marco. Non, mais c'est vrai, voilà. C'est drôle, la remarque que t'as fait.
Après, il y avait
Ensuite, un deuxième thème.
Tu peux me rappeler
Alors, Lewis Hamilton chez Williams, la prolongation de Mark Webber chez Red Bull, l'extension du contrat du Grand Prix de Belgique, le Hungaroring, la nomination de Gilles Boulot à la tête du GTTF1, les essais jeunes à Silverstone, la révision du système de pénalité, le Grand Prix de Formule 1 à Londres ou la réaction de Sébastien Vettel après son abandon à Valence.
Eh bien, le Grand Prix de Londres.
Ah.
Donc, je suis contre puisque déjà c'est le dernier passage où ça passe sous un genre de Porsche.
Oui, sous l'arche de l'amirauté.
Ouais. C'est
ce monument anglais que personne ne connaît, mais que tout le monde connaît depuis qu'il y a le Grand Prix de Formule 1.
Enfin, chez nous, on connaît pas.
Oui, voilà. Non, mais ouais, même un anglais, Shinji, tu leur demandes où se trouve l'arche de l'amirauté, il va dire, je sais pas. Par contre, il va leur dire, hey, where is the arch of the amirauté? Là, il va savoir.
Oui, déjà.
Ça je te rappelle, Shinji, qu'en Angleterre, les Anglais, ils parlent anglais.
Tout à fait. Enfin, of course.
Ah, beautiful. Donc vas-y, continue.
Donc déjà, s'il y a une lutte entre plusieurs pilotes, ça passera jamais. Et puis je trouve que ça fait très Trackmania quand même comme circuit.
Oui, mais en fait, je me demande s'ils ont pas mis le truc sous l'arche exprès pour rassurer les gens, en disant non, mais c'est rassurez-vous,
oui.
C'est une connerie. C'est trop gros, jamais on les fera passer. Enfin, on peut essayer. On essaye.
Et
allez,
puis
on fait juste une fois.
Et puis en Angleterre, il y en a des circuits historiques. Il y a Silverstone ou au pire, s'ils en veulent plus, il y a Donington.
Mais après, je pense que surtout la vocation, c'est l'idée, c'est de faire un Grand Prix. Urbain pour que les gens y aient plus facilement accès.
Oui, mais
en même
bon.
Temps, on peut très bien s'arranger pour qu'ils aient plus facilement accès à d'autres circuits.
Mais après, il y a aussi Monaco, ou comme j'ai vu, comme c'était de nuit sur la vidéo, il y a aussi Singapour, ça sert à rien d'en mettre un deuxième de nuit. Et en ville.
Oui, mais les Londoniens ont beaucoup de difficultés à aller à Monaco ou à aller à Singapour.
Ils ont une télé, ils ont la BBC. Enfin, non, je crois que c'est Sky maintenant.
Voilà, tu vois, c'est ça le truc.
Ah oui, c'est
génial. L'idée géniale de s'entendre, c'est de dire, bon, les gens peuvent plus voir les F1 à la télé, on va leur mettre dans les rues. Vivement qu'on perde la Formule 1 et qu'ils viennent à Rouen, dis donc.
Oh là.
Et donc un troisième thème, Germain?
Oui, ben pourquoi pas le Hungaroring.
Ah, tu vois, Shinji, ça passionne les gens.
Donc,
Oui, Shinji.
Donc déjà, ce circuit est un petit peu historique, puisque c'était le premier circuit, enfin le premier Grand Prix derrière le rideau de fer.
Ouais.
Et je le trouve passionnant, puisque déjà, c'est un tourniquet, ce circuit. Et de plus, en 87, il y avait Demony qui avait failli gagner. Ça, c'était pas mal, sur une arrose. Et puis c'est un circuit où les performances ne comptent pas trop. Enfin, je parle surtout pour l'endurance en fait.
T'as l'air très fan d'endurance.
Un peu beaucoup.
C'est un sport de merde. Oh non.
Non.
Je voulais faire un débat. Oh. Tu sais très bien que je fais les 22 heures du Mans. Ah d'accord.
Oui.
Je fais 12 heures, je dors et je regarde les 10 dernières heures.
Bon. Voilà.
Pas quand il y a 3 Audi en tête, mais.
Oui, encore un peu, c'était 4.
Oui.
Donc, voilà.
Et donc, sinon, bah, du coup, quelle est l'actu de ces dernières semaines dont tu n'as eu strictement rien à foutre en Formule 1?
Eh bien, un article dont je n'ai rien eu à foutre du tout, c'est « Kovalainen ne sait pas de quoi 2013 sera fait ». Puisque moi, non.
Oh, mais
ah, tiens, voilà.
Mais c'est super intéressant. Et il n'y a pas que Mark Webber, Lewis Hamilton ou Michael Schumacher dans la vie. Il y a aussi des grands pilotes dans les petites écuries de merde.
Mais oui, mais simplement, Kovalainen ne sait pas de quoi 2013 sera fait. Moi non plus, ça m'apprend rien.
Ouais, mais ça ouvre la porte.
Quelle porte?
Bah d'ailleurs, là, il l'a redit. Voilà, ça ouvre la porte. Ah, peut-être qu'il est prêt à rouler dans une grande équipe. Même si c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas beaucoup de rumeurs l'entourant, mais...
Les grandes équipes... Il y a qui n'a pas son contrat renouvelé pour l'instant dans les grandes équipes?
Bah Massa.
Massa.
Ouais. Oh là là, Kovalainen.
Ça dépend, c'est Alonso qui a le choix maintenant de son coéquipier. Donc.
Non, Alonso, il a pas le choix.
Donc je pense qu'il va le garder.
Ouais, Alonso,
quand même.
Il va dire, bon oui, allez Kovalainen, ouais allez je le prends. Allez. Ça c'est pas une menace pour le moment.
Pour le moment.
Quand Kovalainen il sera chez Ferrari, il va atomiser tout le monde. Chacun son Finlandais, je dis, d'accord.
Voilà.
Et donc, quelle serait l'actu que tu aimerais lire en dehors des Grands Prix durant les prochaines semaines?
C'est-à-dire en dehors des Grands Prix?
C'est-à-dire en dehors, la victoire de mon pilote préféré, par exemple.
Ah. Donc, moi, ce serait Massa, une diarrhée avant le Grand Prix d'Allemagne. Trulli le remplace pour la course.
T'es un fan de
C'est
Trulli.
Monstrueux, quand même.
J'étais fan de lui, oui.
T'étais fan de lui? Ah,
puisque
tu peux nous montrer des photos?
C'était pendant longtemps le seul pilote de Formule 1 à qui j'avais un autographe. Donc,
Ah ouais?
Ah ouais, quand même.
J'ai eu en 2003.
En 2003, il était chez qui?
Renault.
Renault, ouais.
Renault.
Il a été dans une grande équipe, Trulli.
Oh! C'est méchant.
Je sais pas, ce soir, j'arrête pas de dire des trucs que je ne pense pas.
D'ailleurs, j'en ai du mal à me remettre de son éviction de Caterham.
Oh! Bois un coup, tu verras, ça passe.
Ok.
Et au contraire, quelle serait l'actu que tu n'aimerais absolument pas lire dans les prochaines semaines, en dehors, une nouvelle fois, des Grands Prix?
Donc, que les cockpits devront être tous fermés pour 2014.
Ah ouais?
Oui, puisque ça changerait trop les fins, puis c'est historiquement cockpit ouvert, les Formules 1. Donc,
ouais.
Et puis ça ressemblerait trop à des prototypes du Mans, après. Donc ce serait plus marrant.
Ah oui.
Puisque également en 2014, tous les prototypes devront être fermés. Donc.
Mais c'est pas déjà le cas?
Non, c'est pas obligé.
Ah, c'est pas obligé?
Alors qu'en 2014, ce sera obligé.
Ce sera obligé, d'accord.
Et donc du coup, est-ce que t'as un drive-thru
oui.
Of the weekend?
Oui, donc c'est contre TF1, puisque au départ, ils n'ont pas annoncé que Vitaly Petrov avait pété son moteur pendant le tour de chauffe.
C'est vrai.
Ils l'ont pas annoncé, c'est pas la première fois qu'ils annoncent pas ce genre de truc.
On l'a vu en direct en plus.
Bah oui, on le voyait bien, déjà, alors qu'il était sur son tour de sortie, revenir dans la ligne des stands et surtout voir une belle fumée.
Oui, et déjà, j'ai bien vu le trou aussi qui manquait. J'ai bien vu qu'il manquait une voiture.
Oui, oui.
Et ils l'ont pas annoncé, je crois.
C'est vrai qu'ils auraient pu le rappeler. C'est tout pour ton drive thru?
C'est tout.
Oh la vache, t'as été sympa. J'ai dit, tu veux le faire ou tu fais le bien?
J'en ai pas vraiment un, mais juste un petit que je peux lancer comme ça. Là, c'est pas un drive-thru pour le drive-thru, je dirais. C'est un drive-thru contre la pluie, hein. Mais bon, on va pas parler de la pluie. Hein, on ne maîtrise pas les éléments.
Mais on n'a pas fait exprès.
Voilà, on n'a pas fait exprès. Mais c'était juste peut-être pour souligner. Tu sais, il y a quelques semaines, j'avais dit à un moment, je sais plus pourquoi, on avait parlé des fans. Et j'avais dit oui les vrais fans c'est pas les VIP à Monaco. Je me rappelle, j'avais dit c'est ceux qui regardent les courses sous la flotte à Spa. Je crois que c'est ce que j'avais dit. Et je trouve qu'on a eu une belle expression ce week-end. Parce que je trouve quand même faut quand même saluer les fans anglais, parce que avec le temps qu'il y a eu, il y a eu des bouchons, il fallait plusieurs heures pour faire quoi, peut-être 10-15 kilomètres.
Le record, c'est des journalistes allemands qui ont mis 6h30 pour aller jusqu'à Northampton et juste à côté de Silverstone.
Les parkings, c'était juste une horreur, parce que c'était de la terre, c'était de la boue, et ils étaient là. Et les tribunes étaient pleines, c'était magnifique. Donc voilà, juste pour les saluer, parce que voilà, c'est vraiment, on voit que c'est un public de F1 et de fans de F1. Donc voilà, c'est même pas vraiment un drive-thru.
Bah, c'est pas grave, moi je vais oser le faire, le drive-thru.
Vas-y.
Moi je vais mettre un drive-thru aux organisateurs pour deux choses. Souvenir de Monaco. Je vais d'abord mettre un drive-thru aux organisateurs pour le podium. Je suis désolé, j'ai détesté ce podium. Ce nouveau podium high-tech avec les drapeaux dans des écrans.
Ah oui, non, moi j'adorais.
J'ai détesté ça,
j'ai trouvé
ça
horrible.
Ah non, moi le drapeau, je suis désolé, c'est le drapeau que tu montes et compagnie qui flotte au vent et voilà, il y a quand même quelque chose qui doit... Là, c'était trop...
Ça m'a choqué, mais j'ai adoré.
Trop high-tech et compagnie.
Je ne reviendrai pas sur les trophées, mais vous savez ce que je pense.
Oui, bah c'est les trophées Santander, voilà.
Sauf le vainqueur.
Ah oui, c'est vrai, le vainqueur, lui, il n'en avait pas.
Et donc, mais c'est surtout ce qui est étonnant, c'est le contraste entre ce podium hyper high-tech, super bling-bling, comme est tout le circuit maintenant, et derrière, l'archaïsme de ce circuit, où c'est quand même pas normal quand on voit qu'il y a énormément d'argent qu'on a mis pour faire un nouveau paddock, on a mis pour un nouveau podium, pour faire une nouvelle portion et compagnie, qu'on, tout simplement, comme tu disais, on ne prenne pas soin des fans, des vrais fans qui payent leur place et qui ne sont pas invités. Et vraiment, c'est ce contraste entre malheureusement des trucs high-tech et le pauvre fan qui quand même fait vivre le circuit, mais qui se tape des bouchons comme pas possible, qui se tape effectivement quand il pleut les parkings qui se transforment en gadou land. Voilà, c'est sincèrement, c'est je trouve que ils ont vraiment de la chance d'avoir leur public, parce que c'est pas respectueux envers un public qui est pourtant qui nous l'a montré, qui est absolument extraordinaire. Et voilà, ça serait bien qu'ils mettent un peu moins d'argent dans le bling bling et pour faire plaisir et pour faire joli à la télé, et qu'ils mettent un peu plus d'argent aussi pour contenter les spectateurs sur place.
Et d'ailleurs, c'est Moncey, je crois, qu'il a évoqué, parce qu'en plus, notamment tout ce qui est journaliste anglais sont pas peu chauvins de dire oui, Silverstone c'est le plus grand circuit de F1 et tout.
Oui,
ah ouais, et je crois qu'il racontait l'anecdote d'un de ses confrères belges. Oui. Où il disait, si jamais un journaliste anglais me ressort que Silverstone c'est le plus grand circuit du monde, je sais plus ce qu'il a dit, je lui mets le pain dans les dents, un truc comme ça.
Il a dit, s'il y a un journaliste anglais qui vient se plaindre s'il pleut à Spa, voilà. je lui descends la gueule.
Voilà.
Oui.
Et en même temps, oui, voilà, c'est quand on se rappelle quand même que Manicourt, on a fait chez Manicourt pour un tronçon d'autoroute et qu'il y avait des bouchons. Aujourd'hui, c'est fini. L'Angleterre, ils ont strictement rien fait. Il y a toujours des bouchons et compagnie. Il y a quand même un gros problème.
Mais il faut que la F1 revienne au Castellet.
Non.
Si.
Non.
Si, ça fait 100 km de chez moi, je peux y aller.
On s'en fout, on veut pas un circuit de merde.
Ok.
C'est bon pour l'endurance, hein, le Castellet.
Bah d'ailleurs, j'y étais.
Je veux dire, en France, il y a pas beaucoup de circuits que j'aime. Enfin, qui pourraient accueillir la Formule 1 qui ont mon adhésion. Donc, du coup, j'aime ni Manicourt, ni le Castellet. C'est un peu emmerdant.
Mais en plus, il y a un circuit, c'est celui de Charade, qui est sous législation, enfin qui a, puis en fait il y a des habitants qui habitent juste à côté du circuit qui ont déposé plainte puisqu'il y a trop de bruit en fait. Ouais. Et maintenant ils sont obligés de limiter les décibels.
Il y a beaucoup de cas comme ça, ouais, où ils peuvent pas.
Le fameux Grand Prix de Charade où je crois que c'est justement Helmut Marko. Bah
c'est pour ça, voilà.
Et qui a perdu un œil parce que le Grand Prix, le circuit de Charade, c'est plein de gravier et compagnie, mais le circuit est absolument super. Oui. C'est le grand usage.
Donc pour la Formule 1 déjà c'est mort.
Ah bah oui, non mais oui, mais de toute façon même la Formule 1 pourra jamais y mettre les pieds, enfin c'est un vieux circuit.
Ouais bon, ça se restaure.
Mais c'est quand même dommage, c'est que quand tu vois en France, enfin nous on vient d'une région, la Normandie, qui est un endroit plutôt vallonné et compagnie, on aurait là quand même des endroits, des possibilités pour faire, comme ça se fait à Spa, notamment sur des routes un peu partielles, qu'on utilise durant l'année, puis avec une portion qui serait, elle, permanente, il y a quand même moyen de trouver des territoires en France où on pourrait organiser un Grand Prix sympathique avec du relief.
Bah ici c'est pire, on a
des beaux virages.
Je dirais rien, tu vas me taper. Puisqu'il y a un circuit qui existe, qui est comme ça, qui existe pas trop loin de la Normandie, donc.
Ah bon, c'est quel circuit?
Bah tu le connais. Tu connais.
Bah, j'en vois un, mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus de voiture dessus.
Ah si, il y en a eu il n'y a pas longtemps. Il y a moins d'un mois.
Bah Le Mans.
Bah oui.
Oui, voilà. Non mais Le Mans, oui, ouais, non, on est d'accord.
C'est pas super vallonné.
Bah si, il y a les virages Porsche qui sont un peu relevés quand même.
Putain.
Pardon, c'est bon, j'irai plus rien, voilà.
Non, sincèrement, il y a la descente vers une Indianapolis, voilà, qui est un peu vallonnée, c'est vrai. C'est, voilà.
Mais c'est vrai que pour nous, vallonné, c'est plus vallonné que ça, quoi. C'est...
Oui, ben... Et voilà, c'est-à-dire que nous, normalement, voilà, quand on dit vallonné, c'est ça monte, ça descend. Oui. Mais c'est vrai que même sans être vallonné, je pense qu'il y a quand même des moyens de faire des beaux circuits. Et moi, je trouve que sincèrement, en France, il n'y en a pas de, à part Le Mans, mais ça c'est Le Mans, il est unique, et je vois même pas une Formule 1 sur le circuit du Mans. Peut-être sur le Bugatti, mais il faudrait,
pour qu'il
emprunte notamment tous les virages Porsche à la fin. Mais en dehors de ça, je trouve qu'il n'y a pas de circuit en France qui soit suffisamment excitant et suffisamment intéressant pour vraiment pour rivaliser avec ne serait-ce qu'un Silverstone.
Ah, ce sera le cas pour le futur Flins.
Mais Flin, ça existera
jamais. Oui, c'est mort dans l'œuf, ça.
Laissez-moi rêver.
Il y en a un qui serait content d'avoir un Grand Prix de France à Flin.
Oui.
Ça lui ferait des activités. Salut, Steph Core.
C'est l'heure de la course.
Ouais.
Et on va passer par... On va commencer par un jour pluvieux, le samedi. Enfin, surtout l'après-midi. Le matin, il a pas plu. C'était humide, mais il a pas plu. Mais surtout l'après-midi, où là, par contre, il a plu. Ça a duré combien? 2h30 en tout?
Je sais plus, j'ai arrêté de compter au bout d'une heure.
Oui, 2h30.
2h30. Et cette semaine, eh bien, on a une belle place du con, quand même. Mais une belle, hein. Vraiment une belle.
C'est qui déjà? Ah oui,
c'est Jenson Button.
Oui. Ouais.
Et j'ai envie de dire, c'est un peu prémonitoire de tout le week-end de McLaren? Non, quand même pas.
J'espère de la fin de saison.
Non, mais Hamilton...
Oui, non, sur
Hamilton... Hamilton, il a sauvé les meubles, quand même.
Oui, il a sauvé les meubles. Mais alors, Button...
Pardonnable.
Donc sinon, il y a eu la fameuse Q2, hein, qui a été interrompue...
Ça, j'ai pas trop aimé non plus.
Au beau milieu.
Oui. Oh, j'aurais aimé une pole position de Perez.
Ah, mais alors...
La question, c'est... Je comprends qu'on aurait aimé une position de pole de Sergio Perez, mais la question, c'est pas... On n'organise pas la séance, on met pas les drapeaux en fonction de ce qu'on aimerait voir ou du résultat qu'on aimerait voir.
En 84, à Monaco, il l'avait fait.
Oui, mais justement, c'est justement ce que je suis en train de te dire, c'est que de manière générale, on ne devrait pas le faire. Si on critique le fait qu'il le fasse à Monaco en 84, ben, il faut pas le faire aujourd'hui.
Bon, ils ont repris. En même temps, il y a rien dans le règlement qui dit qu'à un moment, les qualifs doivent s'arrêter. Donc...
Mais après, c'est vrai qu'il y a peut-être des options pour essayer de dire, voilà, une phase de qualification, si jamais on n'arrive pas à reprendre une heure après,
peut-être faire un effet moins une heure, quelque chose d'un peu dérivé de la règle des 4 heures pour la course, en donnant en effet un délai maximal pour la qualification.
Voilà, en disant, voilà, un délai d'une heure, au bout d'une heure, le résultat de la qualification, il est arrêté à Q2 et on trouve un moyen pour organiser Q3.
Oui.
Après, c'est un aléa de la course.
Après, on peut faire plein de choix sur qu'est-ce qu'on prend comme temps et tout, mais c'est vrai qu'il y a rien. Il y a rien réglementairement sur qu'est-ce qui se passe. Bon, voilà, il y a un drapeau rouge, on attend. Et actuellement, c'est tout ce que nous offre le règlement.
Oui. Et on aurait eu une belle grille, hein, puisque si ça s'arrêtait là, il y avait Perez devant.
Ouais.
Et il y avait Hamilton juste à côté. Et après, il y avait Vergne et Ricciardo, je crois qu'il était 4 et 5.
Vergne, ça aurait pas marché, puisqu'il avait sa pénalité.
Oui.
Ah, c'est dommage.
Donc à noter, donc sur le temps sur ce qui a été entériné en Q2, donc Vergne sur le temps, il avait fait 16e. Ce qui est déjà de la progression pour Vergne.
Oui.
Hein.
Ouais, mais sous la pluie.
Bon. Perez.
Il fait 16e alors que ils ont passé tout leur week-end à dire on espère la pluie parce que la voiture elle marche mieux sous la pluie. Non, c'est juste que les autres marchent moins bien, que ça égalise le niveau.
Oui, oui.
Voilà, la voiture elle n'est pas conçue pour la pluie, c'est juste que c'est une trapanelle et que les trapanelles généralement sont un peu meilleures.
En plus,
sous
il a quand même réussi à être derrière Ricciardo comme d'habitude, donc au final, c'est toujours pareil. Rosberg qui ne fait que 13, hein, Kobayashi 12, Eddie Resta qui reste à la porte en 11e.
Et donc en 11e.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est une super place, la 11e.
Oui, c'est presque une pole position.
Bah, c'est quasiment une deuxième pole, ouais. Avec une bonne stratégie, ça, d'ailleurs, je me demande si c'est pas Alonso, les deux fois où il a gagné, il partait 11e. Parce qu'il me semble qu'en Malaisie, il part 11 ou 12.
C'est possible.
Et à Valence, il part 11e.
Et donc en Q3, alors, En dixième, il y a eu Romain Grosjean, mais bon, malheureusement, il a pas pu profiter. Il a pas fait de temps, mais pour une fois, c'est pas qu'il est pas sorti de son stand, c'est qu'il est pas rentré à son stand,
oui,
surtout.
De ça.
Pourquoi il est, enfin, il y en a qui ont dit, oui, il aurait, sur son dernier tour, vu qu'il avait fait son temps, est-ce qu'il aurait pas dû, entre guillemets, y aller mollo pour éviter de sortir? Bon, c'est dommage.
Généralement, ceux qui disent ça, c'est ceux qu'on fait de la Formule 1 il y a 20 ans.
Oui. Hein,
tu vois ce que je veux dire. Oui. Hein, des gens qui se permettent de dire à des journalistes.
C'est super.
Non mais toi, t'as pas fait de Formule 1.
C'est clair. C'est très dur d'être Gilles de la Posta dimanche et fin.
Oui, c'est vrai qu'il en a.
Non mais c'est vrai. Hein, ils sont des. Là, faut avouer.
Mais moi, quand je vois Franck Lagorce qui se prend pour un pilote de Formule 1 avec à ses côtés...
Oui, Lagorce,
il a quand même un truc, quand même.
Ah là, mais alors, enfin, je sais pas si tu l'as vu le dimanche et fin, tu l'as vu ou pas?
Non, j'ai pas Eurosport.
Donc, il y avait Charles Pic, il y avait Olivier Panis, il y avait Franck Lagorce et Franck Monti. Et à un moment, bon, Gilles...
Et il y avait Margot Laffitte.
Et Margot Laffitte. Voilà, mais il en a compté 4. Hein.
Oui, bon, mais quand même.
Il sort un truc, bon, qu'on est d'accord ou pas, ça, et Franck Lagorce, il sort le truc qui tue. Non, mais là, t'es à côté de 4 anciens pilotes de F1. Enfin, 4 pilotes de F1.
Oui, et là, toi, tu dis, attends. Alors, cherchons les 4 pilotes de Formule 1.
Oui, en plus. Oui.
Non, c'est bon, la Gorce, il a fait 2 grands prix ou 3 grands prix.
Gilles de la Posta, cette excellente remarque, il dit, bah, dans ces cas-là, si j'ai rien à dire, je me casse.
Bah oui, non, mais j'aurais fait, moi, je me serais cassé, hein, sincèrement.
Mais la Gorce, il est ridicule, c'est incroyable. Puisqu'il a commenté les 24 heures du Mans. Et c'était drôle.
Moi, la Gorce, je l'aime bien quand, Je trouve que des fois, justement, il a un regard parce que c'est un ancien pilote de troisième zone de la Formule 1. Je trouve qu'il a aussi un regard qui est à lui et qui est pas inintéressant. Je suis pas tout le temps du genre à critiquer. C'est pas inintéressant. Mais sincèrement, moi, dimanche, il m'a énervé. Le fait de se cataloguer lui, pilote de Formule 1 et par rapport à Gilles de la Posta, alors qu'à côté de lui, t'as quand même Olivier Panis, vainqueur de Grand Prix.
Oui,
compagnie.
Oui.
Tu dis, attends, t'es aussi près d'Olivier Panis que Gilles de la Posta, d'accord? Faut le camembert. Donc voilà, tu prends pas les gens de haut, surtout quand tu vois sa carrière en Formule 1, malheureusement, voilà, tu peux pas te permettre de dire, ah ouais, il y a que nous qui pouvons comprendre, voilà. Parce que là, les journalistes, effectivement, ils ferment leur gueule et on ne donne que les rênes aux pilotes de Formule 1. Et c'est vrai que du coup, quand lui, on écoute parler de Formule 1, c'est bizarre, tout d'un coup, c'est beaucoup moins précis.
Mais en plus, il a eu Panis comme coéquipier, je crois, pendant ces deux courses.
Il est super pote avec Panis.
Ouais. Ah, c'est la même génération, hein, donc. Donc sinon, sur le reste de la Q3, on a Nico Hülkenberg hein, qui se classe 9e, Hamilton qui fait que 8, Maldonado 7, Raikkonen 6.
Moi j'aime bien cette grille.
Oui.
Maldonado devant Hamilton, ça me plaît. Vivement le départ.
Oui. Massa en 5e place, et ça c'est vraiment bien pour lui.
Oui.
Ouais. Autant, bon, c'est vrai qu'il y a 2 semaines, entre guillemets, ça avait rechuté. Mais si on prend sur 4-5 grands prix, ça va de mieux en mieux. Vraiment.
Ouais, il y a 2 semaines, ça a rechuté parce qu'il y avait des dégâts sur la voiture et compagnie, et que la voiture, elle était plus du tout performante. Voilà, donc c'est pour ça
que ça a chuté. Voilà.
Mais c'est pas lui, même chez Ferrari, ils le disent, c'est pas lui, c'est la voiture.
Son meilleur résultat depuis 2010.
Ah oui, oui.
Ouais.
D'ailleurs, à tel point que là, on commence, bon, on en reparlera parce que après sur sa course, mais on commence à se dire qu'après tout, pour l'an prochain.
Pourquoi
changer?
Non.
Oui.
Je sais pas, on pourrait trouver un jeune pilote allemand ou un truc dangereux à mettre dans le back-end de Ferrari.
Kobayashi?
Non, un allemand.
Pas allemand.
c'est pas le.
Nickelfeld?
Non, oh non.
Il est pas jeune.
Surtout pas avec sa nouvelle coupe de cheveux. Oh là là. Oh mon dieu, j'ai vu sa coupe de cheveux cette semaine.
Ouais, donc,
mais il est au courant, Nick Heidfeld, qu'il a bientôt 40 ans, parce que là, il s'est un petit peu coiffé les cheveux comme, c'est un revival des années 80.
Ouais, enfin, mais pour en ça, même temps, souviens-toi que l'an dernier de Nick Heidfeld, c'était un peu Justin Bieber avec sa coupe de cheveux. En quatrième, Sébastien Vettel, qui est derrière un autre Allemand, c'est quand même Michael Schumacher, troisième.
Bravo.
Ouais. C'était son sommet du week-end.
Donc en deuxième, Mark Webber, qui quand même déjà, lui aussi, il fonctionne bien quand même en ce moment. Et quand même, première pole d'Alonso depuis
2010.
2010. c'est faux. Enfin, à vous autres, t'as tellement l'habitude maintenant de le voir tout le temps devant que tu dis, putain, ça fait que depuis 2010. Waouh.
Comme moi, j'ai dit, c'est tout le monde se rappelle bien que c'est depuis 2010. Surtout les gens qui aiment bien l'écurie rouge, tu vois. C'était bizarre d'ailleurs ce Grand Prix de Formule 1. C'est, je me suis dit, tiens, une voiture rouge en première ligue, c'est bizarre.
Et n'empêche qu'encore une fois, en fait, faut pas partir en pôle cette année, hein.
Non.
Si, en Espagne, ça avait marché.
Ah bah oui.
Ouais, mais une fois sur huit.
Ah bah, faut tenter. Oui.
Donc, faut partir 11e, t'as plus de chances de gagner.
C'est vrai. Donc, alors à noter, parce qu'il y a eu une pluie de modifs. Alors déjà, bon, Charles Pic, il n'était pas dans les 107%, mais il a été accepté, il n'y avait pas de souci. Oui. Sinon, Jean-Éric Vergne, il a été rétrogradé de 10 places pour avoir causé un accident lors du Grand Prix d'Europe. Kobayashi, qui était 12e, il a été rétrogradé de 5 places, pareil, pour un accident au Grand Prix d'Europe. Hülkenberg et Pic ont été rétrogradés de 5 places pour changement de boîte.
Ouais.
Et enfin, la petite cerise sur le gâteau, hein, la cerise sur la vodka, je dirais, hein, c'est Vitaly Petrov, qui donc a cramé, a explosé un moteur. Hein, sur le tour de
Mais voilà, fais simple, Shinji. Voilà. Exploser un moteur. Voilà, fais simple.
Il a explosé.
Tu peux faire simple, Shinji.
Exploser son moteur. Il devait partir 18e. Et ben, il a vu la course des stands. Et toute la course. Ah, parfois, ouais. Il voit une grosse partie. Là, non, il a vu toute la course. Donc, c'est la 21e pole pour Fernando Alonso. La 206e, hein, pour Ferrari en tant que constructeur. La 207e en tant que motoriste. Comme d'habitude.
On reprend un peu d'avance sur Renault.
T'inquiète pas.
Si la fin de saison, c'est mort.
Ah, ah oui, c'est vrai. Non, mais...
Non, on va en bouffer plein de Red Bull, tu te dis.
Non, ça va tenir. Peut-être pas de beaucoup, mais ça va tenir.
Oui, mais en 2013...
Ils seront peut-être pas... S'ils dépassent, ils dépasseront pas de beaucoup. Ne t'inquiète pas.
J'ai peur, tu te dis.
Et nous allons passer, cette fois-ci, au dimanche, qui, lui, n'a pas été pluvieux, à la grande surprise de tout le monde.
Ouais.
Même si, apparemment, après, il a plu. Ça, la pluie s'est décalée dans le temps, mais dimanche soir, il pleuvait.
Mais il citait une stat, Malbranche, pendant le week-end, c'est chaque jour depuis le mois d'avril, il a plu.
Là, ils ont dit qu'avant le week-end, il avait plu 40 jours en continu sur Silverstone.
Ouais, série en cours.
Oui, et que je sais plus, quelques jours avant, si ce n'est pas peut-être même le vendredi ou le samedi, il avait plu en une journée l'équivalent d'un mois.
Voilà. Ah oui, il disait ça, c'était pour vendredi, je crois.
Vendredi, voilà. C'était humide.
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
Alors Dino, peux-tu nous dire quel pilote ne fait pas partie du top 10?
Eh bien déjà, Shinji, je peux te dire, je peux rassurer nos auditeurs. Pedro de la Rosa ne fait pas partie du top 10 puisqu'il a 0.
Bravo, bravo. Non, vraiment bravo, parce que en règle générale, ils marquent tous au moins 1, 2, 3, 10 points.
Bon, lui, ouais, mais il y a déjà un petit problème là. C'est-à-dire que Petrov en a marqué.
Oui.
Peut-être un signe d'encouragement puisque Petrov est 23ème avec 1 point.
Ah oui.
Donc tu vois.
Non, oui, il y a un glandu qui a voté pour lui, bravo.
C'est bizarre. Moi qui pensais que Kartikeyan méritait complètement sa place il y a 15 jours.
Et encore, je trouve que cette semaine, il est encore un peu élevé.
Ouais, puisque déjà...
Ne gâchons pas le suspense, Shinji. Hein. C'est que ce grand suspense, Kartikeyan va-t-il marquer des points? Et donc, en 22e position, nous avons Heikki Kovalainen, 3 points.
Un bon week-end.
Et qui, d'ailleurs, je le rappelle, ne sait toujours pas de quoi sera fait 2013. En 21e position, nous avons Pastor Maldonado qui a marqué 5 points.
Ouh, sévère.
En 20e position, Paul Di Resta qui lui aussi a connu une course très courte. Il a marqué 6 points, soit 6 fois plus de points que Petrov.
Oui.
Pour une course qui a duré pas 6 fois plus longtemps. Ensuite, en 18e position, ex aequo, Daniel Ricciardo et Timo Glock ont marqué 9 points. Oui, Timo Glock est de retour.
Je commence à m'inquiéter là.
En 17e position, il va jouer en 2014 dans L'Homme Invisible. C'est Nico Rosberg qui a marqué 25 points.
Ah, c'est son pire score. Oh. Il s'est pris une grosse branlée ce week-end.
Ah oui, il a oui. 15e.
En même temps, il n'a pas fait un super week-end.
Voilà.
En 16e place, nous avons Charles Pic qui a marqué 36 points. En 15e place, Germain, tu avais peur. Et tu as raison, puisque Kobayashi et 15e avec 47 points.
Non, c'est un vrai kamikaze, Kobayashi, c'est incroyable.
Tu remarqueras que ça se rapproche, ça commence par un 15.
Oui, oui.
En 14e position, nous avons Sergio Perez, 50 points. En 13e position, nous avons Nico Hülkenberg, 52 points.
Là, ça se rapproche. J'ai très peur, là.
En 12e position, il a dû passer un très bon week-end. Il a dû avoir beaucoup de contacts avec Météo France, puisqu'il est très doué pour faire la météo. Ah. Et il ne manquera donc pas un point ce week-end. Ne serait-ce qu'un, déjà. Ce serait trop. C'est Neran Kartikeyan, ouf, qui ne marque 55 points et qui en marquera 0 dans le classement, mais qui est quand même 12e. Et ça fait peur.
D'ailleurs, j'adore le titre de l'article que vous avez fait sur la course d'HRT. HRT entre audace et progression.
Et enfin, en 11e position, Jean-Éric Vergne, 75 points. Et voilà.
Super. Et donc, à 10e place... Ah non, attends, j'oublie.
Oui, parce qu'il y en a quelques-uns, je suis dit que j'ai mis... J'ai notamment mis Kartikeyan.
Non, tu n'as pas mis Kartikeyan. Tu as donné un point à Kobayashi.
Oui, parce qu'il a assumé pleinement la responsabilité. Il était vraiment contrit après la course pour son accident. Et il a assumé la responsabilité et tout. Et voilà, c'est...
Oui, les Japonais,
c'est pas le mec qui a cherché des fautes et compagnie. Il a dit non, c'est moi qui ai freiné trop tard. Je me suis loupé.
Et tu as donné deux points à Perez, qui était pas content. Oh, qui était pas content.
Ah non, il était pas content après la course. Moi, j'aurais été pasteur, j'aurais frôlé les murs.
Qui a été sanctionné, je crois, juste de 25 000 $, quelque chose comme ça.
Non, 10 000, 10 000.
10 000, oh, bah, ah, même pas.
Ouais, oui, je crois.
Ça, c'est Kobayashi, ça.
Oui, je crois que j'ai confondu, là. Oula.
Ah, oui.
Kobayashi, il a été sanctionné, et Maldonado, il a eu... Attends, non, je crois que Maldonado, il a eu non seulement un blâme, mais en plus une amende, effectivement.
Oui, une amende, mais pas de points, ni de place.
Voilà. En même temps, vu ce qui finit...
Oui, ça servira à rien.
Mais il aurait pu prendre 5 places pour le prochain.
Bah oui, voilà.
Ou 10.
Parce qu'indirectement, il provoque la sortie de son copain, ses adversaires.
Camarade.
Oui, on va peut-être pas dire copain.
En plus, ils parlent tous les espagnols, ils auraient dû s'entendre.
Donc juste sur Perez.
Beau début de course, c'est dommage parce qu'il part 15e, je crois. Et au moment où il abandonne, il est dans les 10 premiers, il doit être 6 ou 7. Voilà, c'était un beau début de course, c'est dommage, j'aurais bien voulu voir ce qu'il y avait ensuite.
Et sinon, Germain, tu as donné un point à Hülkenberg.
Oui, puisque il a fait une bonne course, il a un peu déconné sur la fin, mais il fallait bien un 10e. Voilà. On le cherchait, et puis on choisissait porter sur lui.
Et c'est dommage, parce que sincèrement, chez Force India, c'est vraiment couillon, ils n'ont pas eu de chance, parce que c'est Hülkenberg qui avait les réglages pluie, et Di Resta qui avait les réglages pour le sec, et je pense qu'ils auraient peut-être préféré finalement que ce soit Hülkenberg qui se fasse harponner ou qui abandonne au début, et que ce soit Di Resta qui continue, parce que Di Resta, il avait vraiment une carte à jouer, et il aurait pu faire vraiment un très très bon résultat, parce que il avait vraiment apparemment pris les réglages pluie, quoi, il avait vraiment fait un gros pari.
Et donc arrivé 10e avec 104 points, Jenson Button. Alors moi je lui ai mis un point, mais vraiment au classement, parce que il a été vraiment au fond du trou tout le week-end, donc
oui. c'est presque,
comme on dit, c'est un point à l'expérience, hein, parce que c'est presque miraculeux qu'il soit dans les points.
Alors Jenson Button, qui a commencé la saison par une victoire en Australie, donc en marquant 25 points, et depuis il n'a fait que doubler ce score. Donc en 8 Grands Prix, en 7 Grands Prix, il n'a marqué que 25.
Et puis alors c'est très... C'est-à-dire qu'il fait 25, rien.
Il fait 18
en Chine,
3,
donc ça va encore. Alors après c'est 2, puis voilà, 4.
C'est 7 points sur le reste, quoi.
Puis 1, c'est... Oh, c'est terrible.
Mais j'ai l'impression qu'il approche de la fin de carrière, lui.
Alors, la question, est-ce que c'est la fin de carrière? Est-ce que c'est parce qu'il a énormément de problèmes avec les pneus? Est-ce qu'il a énormément de problèmes avec la voiture?
De toute façon, il va rebondir avec McLaren en endurance. Déjà.
Il s'engage. Moi, je pense que sincèrement, quand on écoute les discours des pilotes après, enfin, l'équipe elle a mis, on avait pris les réglages pluie et compagnie. En même temps, comme l'a dit Charles Pic dans Dimanche F1, tout le monde plus ou moins a pris des réglages pluie pour la sécurité, en mettant soit intermédiaire, soit vraiment full wet.
Oui, voilà.
Donc, tout le monde était à peu près dans le même truc. Et quand tu regardes les pilotes derrière qui disent, de toute façon, c'est pas difficile, on est bon dans aucun domaine, les Sauber, elles sont bonnes, c'est Jenson Button, je crois que c'est Button qui dit, les Sauber, elles sont bonnes dans les virages rapides, les Williams, elles sont bonnes dans les virages lents, nous, on est bon dans aucun des deux.
Non, puis c'est pas comme
eux,
si
ils peuvent faire une boulette et repartir et reprendre le large, voilà, c'est ce que nous, on peut pas faire. Et
en plus, c'est pas comme si c'était ponctuel, je veux dire, ça fait vraiment plusieurs. Oui. Plus que plusieurs semaines, ça commence à faire plusieurs mois que Button, franchement, il vivote.
Et surtout, alors que Martin Whitmarsh a mis en avant le fait qu'ils avaient des réglages pluie, les pilotes, eux, dans leur déclaration après, dans le paddock, ne parlent pas du tout des réglages pluie. Ils parlent de la voiture. Donc c'est vraiment qu'il y a un problème de voiture. On a Lewis Hamilton qui commence déjà à dire qu'il y a un truc de conception à faire, qu'il faudrait revoir la conception, mais que c'est trop tard.
Non, mais ce qui est dingue, c'est qu'il parle de voiture.
Il est déjà en train d'avoir un discours, Hamilton, peut-être même déjà sur 2013.
Ce qui est dingue, c'est qu'il parle de voiture ratée, alors qu'en début de saison, elle était quand même bien meilleure.
Oui. C'est le contraire l'année dernière.
Mais c'est ce qui est cruel pour McLaren, c'est que McLaren l'an dernier, ils arrivent avec une voiture qui est pas réussie, mais ils ont une énorme marge de développement. Là, cette année, ils ont une voiture qui a bien marché. Le problème, c'est qu'elle a bien marché, mais apparemment, en marge de développement, elle propose pas grand chose. Ou en tout cas, ils ont pas trouvé grand chose. Et là, on voit cette année que c'est encore les équipes qui étaient en retrait en début de saison. Ferrari et Red Bull. Ça fait quand même deux courses où on voit les Ferrari et les Red Bull devant les autres. Ce sont ces équipes-là qui, avec une marge de développement, ont réussi à trouver des trucs. Donc, vraiment, ces dernières saisons, la vérité du début de saison n'est pas forcément celle de la fin de saison. Bon, il y a le cas Red Bull où, bon, voilà, quand t'as un avantage en début de saison, tu l'as, quoi. Mais McLaren, cette année, ils n'ont pas eu cet avantage. Et avec la course au développement et compagnie, bah, ils sont en train de le perdre. Et on commence à sentir, comme chez les pilotes, que ça commence sincèrement à s'inquiéter.
Passons à la 9e place. Il a marqué 171 points. C'est le début de la série des 71, vous allez vite comprendre. Oui. C'est Bruno Senna. Alors, moi, j'ai donné 4 points, comme toi, Dino. Et Germain, tu lui as donné 2 points. Bonne course de Senna.
Oui, magnifique.
Il en a besoin, en plus. En plus, il en a besoin en ce moment. Donc, c'est très bien pour lui.
Oui, il a fait un magnifique dépassement sur la fin, quand même. C'était sa passe ou sa casse, mais il y est arrivé.
Dino ?
Bah, rien. Enfin, voilà, il fait une très belle course. Ce qui est dommage, il fait une très belle course.
Il a sauvé les meubles.
Il se murmure que c'était peut-être son dernier Grand Prix avec Williams. Donc, je suis pas sûr que ça suffise pour le sauver. Maintenant, moi, j'ai jamais été un grand fan de Bruno Senna. Il y a quand même une chose qui est sûre, c'est que même si Bruno Senna fait des erreurs, il est quand même là derrière pour aussi récupérer un peu les fautes de son coéquipier, quoi. C'est vrai que Maldonado fait mieux dans l'ensemble. Maintenant, Maldonado, il fait quand même pas mal de conneries. Et des conneries vraiment tout seul. Là où j'ai vraiment l'impression que Senna, c'est plus parce que il a pas le niveau, clairement. Là où Maldonado, il fait des conneries parce qu'il a pas le cerveau qui va avec avec son talent. Donc voilà, c'est...
Non, mais au final, ça fait un choix très cornélien pour Williams. Ils veulent le niveau ou le cerveau? C'est con à dire, mais voilà.
Mais surtout, c'est que derrière, il y a aussi le risque pour Williams de se séparer de Bruno Senna en disant bah oui, il a pas de bons résultats et compagnie, en sachant que derrière le deuxième pilote, Maldonado, enfin le pilote numéro 1, il fait tout autant de conneries que Senna, sauf que la différence, c'est qu'il a une victoire.
Oui.
Mais il faut quand même rappeler qu'il a eu un podium, il a une possibilité de podium, il est parti à la faute. Pour moi, responsabilité partagée avec Hamilton, mais il est quand même parti à la faute à Valence. En début de saison, il n'était pas loin de pouvoir battre Alonso et de prendre des gros points. Il se gouffre dans le dernier tour en faisant n'importe quoi. À Monaco, il a encore fait n'importe quoi. Voilà, comme dit Pérez, c'est qu'à un moment donné, il va peut-être falloir aussi commencer à se poser des questions sur le cas Maldonado, comme on s'en est posé sur le cas Hamilton l'an dernier. Il n'y a quasiment pas un Grand Prix où il ne se fait pas remarquer par des manœuvres, par des incidents. Là,
avec des manœuvres qui parfois ont dépassé la simple erreur. Ou souviens-toi l'an dernier, où ça devenait même des choses volontaires.
Oui, en Belgique notamment.
Voilà.
Non, le plus grave, c'est qu'il n'apprend pas de ses erreurs. C'est que déjà, à Valence, il part de loin. Et derrière, ça lui coûte cher parce qu'il s'accroche avec Hamilton. Là, il refait pareil.
C'est terrible, surtout pour Williams, quand on voit vraiment la qualité de la voiture cette année. C'est quand même gâché. Oui. C'est franchement gâché des résultats.
Ouais, mais le problème, c'est qu'il n'ose pas le remettre sur le droit chemin puisqu'ils ont peur qu'il vise.
Bah, c'est 35 millions. Hein, voilà. 35 millions, c'est ce qui est payé Alonso chez Ferrari. Voilà, chez Ferrari, Alonso pour 35 millions. Et il dit ce qu'il veut. Voilà, sauf que là, c'est Maldonado qui les ramène, les 35 millions. Donc, c'est un peu lui qui dit ce qu'il veut.
Mais il faudrait un ancien pilote mentor, comme à Charles Pic avec Olivier Panis. Parce que je pense que Panis lui apprend ce qu'il faut pas faire, tout ça.
Je sais pas, après, est-ce que c'est parce qu'il manque d'encadrement? Est-ce que c'est par de l'inexpérience? Est-ce qu'il est encore un peu trop, entre guillemets, GP2? Oui. Est-ce que tout simplement c'est pas un con? C'est aussi.
Est-ce qu'il veut pas trop en faire aussi? Moi je pense que il sent aujourd'hui qu'il a la voiture pour, il est galvanisé par sa victoire et peut-être qu'il veut beaucoup trop en faire.
Ouais.
Et non, c'est...
Pas...
enfin voilà.
En même temps ça n'a pas commencé avec sa victoire. Hein.
Non mais voilà, mais non mais il y a quand même des faits, c'est que généralement ça lui arrive quand il est sur une bonne dynamique. Mmh. Ouais. C'est pas le mec qui se gaufre qui a un accident de dépit comme pouvait avoir Hamilton l'an dernier. C'est un mec qui a des accidents. Quand tu prends en Australie, le mec il a un accident parce qu'il est derrière Alonso et que depuis pas mal de tours il se bat et compagnie, qu'il fait un bon résultat, mais il en veut un peu trop.
Ouais.
Donc du coup, bah, il attaque trop, il va à la faute. Et là encore, c'est pareil. Je pense que c'est un pilote qui va trop vite, qui va aller trop vite, qui est trop confiant en lui.
Messieurs, passons à la 8e place avec 271. C'est bon ça, hein, il y a une série.
Et c'est pas fini.
Je lui ai donné 2 points. Germain, tu lui as donné 6 points. Dino, tu ne lui as pas donné de points. C'est Lewis Hamilton. Donc très mauvais score, hein, même sur le SAV pour McLaren. Ouais. Moi, c'est pareil, hein, c'est au classement parce que cette stratégie, enfin. Il y a la voiture, il y a la stratégie.
À un moment, il était devant quand même.
Oui, il était devant.
Oui, mais la stratégie.
Voilà, parce qu'il était en décalé.
C'est dur.
Deuxième relais a été extrêmement court, même avec des pneus tendres.
Ouais,
ça a surpris tout le monde qui rentre aussitôt.
Et c'était prévu.
Oui, c'était prévu.
c'est la preuve que les pneus Pirelli, c'est du chewing-gum.
Oui, mais en même temps.
Mais je suis désolé. Non, je suis désolé. C'est pas du chewing gum, Germain. C'est parce que pourquoi ça tient pas sur la McLaren et ça tient sur d'autres.
La McLaren les masques.
C'est que c'est pas le problème. C'est que c'est pas le pneu le problème.
C'est l'exploitation.
C'est la compréhension du pneu. Les pneus ils sont identiques pour tout le monde.
Et d'ailleurs,
il y en a qui arrivent à faire que ce soit pas du chewing gum.
À dimanche F1, parce que ça c'est toujours une hypothèse qu'on aurait pu formuler. Charles Pic a bien confirmé un truc. Il y a pas de pépin au niveau de la fabrication des pneus. Non. C'est-à-dire que les pneus se comportent bizarrement, mais ils sont tous identiques.
C'est-à-dire c'est normal.
Non, mais c'est-à-dire qu'ils vont se comporter tous bizarrement de la même façon. Il y a pas un problème au niveau de la fabrication des pneus qui fait que les pneus se comportent n'importe comment. Il y a un problème de compréhension, il y a un problème d'exploitation. En effet, il y a vraiment des variations entre les circuits, les conditions climatiques, les voitures, comment elles sont conçues et comment elles sont réglées, plus bien évidemment le pilotage des pilotes, mais il y a pas de loup, les pneus sont comme ça.
Mais c'est d'ailleurs le sens des critiques d'Helmut Marko, qui était dans sa grande semaine « Je suis parano et je m'en cache pas », où il disait « Les pneus, ils sont conçus pour des voitures entre guillemets simples ». Et c'est vrai que quand tu regardes les voitures qui digèrent le mieux les pneus, c'est la Sauber et la Lotus, dont on peut pas dire qu'elles brillent par leur agressivité aérodynamique.
Oui, ils ont pas fait des choix. Oui.
Ce sont juste des voitures très simples, très efficaces. Et voilà. Mais après, ça fait aussi partie du boulot. C'est aussi, voilà, on comprend les pneus. Les pneus, ils les ont découverts l'an dernier. Ils avaient des data et compagnie. Ils avaient quand même déjà de quoi pouvoir commencer à analyser les pneus, pouvoir trouver des solutions. Donc, c'est pour ça que je dis, certes, les pneus Pirelli peuvent parfois être chewing-gum, mais s'ils sont chewing-gum, c'est parce qu'ils sont, mal utilisés. Donc, faute de l'équipe, faute du pilote. Enfin, plutôt faute de l'équipe.
Ou alors, dans des conditions climatiques exceptionnelles ou de pistes exceptionnelles.
Mais pas vraiment, en fait. Parce que dans les grands prix les plus chauds, ils se sont pas, ça n'a pas été catastrophique, par exemple, à Bahreïn. À Bahreïn, on craignait une catastrophe et les pneus, ils ont relativement bien.
C'est vrai, même au Canada.
Après, il faut savoir la stratégie, il faut savoir comment les faire fonctionner à bien. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment de surprise. Maintenant, comme tu le disais, le problème, c'est qu'à chaque grand prix, ils redécouvrent les pneus.
Bah, là, pour le coup, faut pas que les équipes demandent de nouveaux pneus aussi pour l'an prochain, pour rester sur les datas qu'ils auront collectées cette année. En tout cas, c'est ce qu'il faudrait plutôt leur conseiller. Parce que s'ils redemandent à changer encore les types de pneus, ils vont encore s'arracher les cheveux l'an prochain.
Mais ce qu'il faudrait surtout, je pense, c'est vraiment qu'ils puissent travailler en avance. Et là, on sent la volonté de Pirelli, c'est de leur faire déjà découvrir un peu les pneus durs l'année prochaine. Là, ils n'ont pas pu le faire à Silverstone parce qu'il pleuvait, ils n'ont pas pu l'utiliser vendredi. Mais donc, ça va être reporté en Allemagne. Et c'est vraiment le sens, et ça aurait pu être l'intérêt de ces essais jeunes. À Silverstone, ça aurait été justement de fournir des pneus, parce que malheureusement, c'est vrai qu'il faut reconnaître que les équipes elles les découvrent qu'au mois de novembre, les premières versions, et que derrière elles arrivent, elles découvrent les pneus, la voiture est déjà conçue, donc c'est beaucoup trop tard. Ils sont comme l'an dernier les pneus, hein, c'est juste que cette année, les pneus sont un peu différents, que les fenêtres de fonctionnement sont différentes, que la structure est différente, et voilà, il n'y a pas de raison que l'an dernier Pirelli faisait des bons pneus et qu'aujourd'hui ils soient plus bons.
L'année dernière, je me souviens pas qu'ils étaient excellents les pneus. Enfin.
Non mais.
Mais attends, c'est quoi un pneu excellent?
C'est un pneu qui peut tenir plus de 10 tours.
Mais les Pirelli ne
font pas oui, mais Pirelli tiennent plus de 10 tours. Le problème c'est que
oui,
ils chutent.
Les...
Non mais le problème c'est qu'on leur a demandé ça, on leur a demandé de faire ces pneus-là. Eux ils le disent, nous on veut bien faire des pneus endurants. Les pneus en soi ils sont pas pourris, ils sont bien construits. C'est juste la demande. Eux ils ne font que faire des pneus qu'on leur demande. Alors c'est sûr que c'est pas du pneu performance comme peut faire Michelin etc ou comme tu peux voir en endurance ou justement en endurance le but du jeu c'est d'avoir des pneus qui tiennent le plus longtemps possible. Là pour le coup c'est un format de 1h30. Est-ce que c'est intéressant d'avoir 1h30 avec le même train de pneus? Apparemment ça plaisait pas aux équipes, ça plaît pas aux spectateurs et compagnie. C'est pas du tout la même contrainte.
Sinon pour venir sur Hamilton, vous aviez quelque chose à rajouter ou pas?
Non.
Et bien dans ce cas-là passons à la 7ème place, 471. Hein, voilà. C'est bon, c'est la fin de série. Il est allemand. Il est champion du monde, mais il n'a pas gagné cette année. C'est Michael Schumacher. Je lui ai donné 6 points, Dino, tu lui en as donné 8, et Germain lui en a donné 4.
Ben, Schumi, sa course, c'est résumément une belle qualification. Après, il a ouais. été. Après, on voyait clairement qu'il était, que sa voiture n'était pas assez rapide pour lutter, mais il s'en est bien sorti quand même.
On sent quand même une.
C'est bien défendu sur Massa, oui. belle ouais. défense, parfois un peu. Un peu Schumacher-esque,
ouais, voilà. Défense,
mais, voilà, c'est toujours à la limite, mais en même temps, ça dépasse pas la limite.
Ça va, voilà.
Voilà, c'est ce que je demande à voir comme défense. Moi, j'adore les défenses comme ça, donc, voilà, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis 8 points, c'est ça, voilà, c'est sa défense, malheureusement, je pense qu'il a pas la voiture pour aujourd'hui pouvoir faire mieux que ça.
Et
surtout ce week-end où la pluie venait se mêler, compagnie, les réglages et compagnie.
On a quand même aussi l'impression que du côté de Mercedes, ça patine un peu aussi par rapport au tout début de saison. Ouais. C'est quand même moins flamboyant. Bon, Schumacher a fait de très bons résultats récemment, mais au global, même par exemple quand on voit Rosberg, c'est
quand
même des courses, on le voit plus.
Il a
quoi.
Plongé, il s'est noyé.
Oui.
Mais non, Shinji, Mercedes, ils cachent leur jeu. Cela dit, ils vont se révéler au mois de novembre.
Et ils oui. le cachent bien, alors.
Non, mais encore une fois, voilà, c'est le truc du développement.
Hein. Oui, là.
Ils sont arrivés avec une voiture qui était pas trop mauvaise. Et bah aujourd'hui, ça patine. Là où, c'est vrai qu'on a un peu paniqué en voyant Ferrari et Red Bull. Ça marchait pas très bien, mais ils étaient quand même dans le top 10. Et ils avaient une plus grande marge de développement. Ah maintenant faut savoir si ça s'est arrêté pour Ferrari, Red Bull qui sont arrivés au maximum et que peut-être en apportant des nouvelles pièces Mercedes et McLaren vont remonter. Mais pour le moment voilà ça patine un peu dans le développement.
Passer à la 6ème place.
Ouais, ça m'énerve de passer si vite sur Schumacher.
Bah, tu veux rajouter quelque chose.
Il fait quand même une heure, mais voilà ça. Mais j'ai rien à rajouter si c'était qu'il fait. Voilà, il fait une belle course.
Il l'a fait pour le mieux.
Mais voilà.
Passons dans ce cas-là à la 6ème place. Et vous allez voir, ça a été très 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 serré.
Ah, j'étais content, j'ai dit. Toi, t'étais pas content.
Moi, non.
J'étais content.
À la sixième.
Ça aurait été du vol, hein. Sincèrement, ça aurait été du vol, j'ai dit.
Franchement, c'est tellement serré que là.
Non, ils sont pas ex-éco. Il y en a bien un qui est devant là.
Ah oui, non, mais. Il a marqué 705 points. Je lui ai donné 10 points. Germain lui en a donné 8. Dino lui en a donné 6. C'est Kimi Raikkonen. Bon, départ un peu agressif, peut-être un peu trop.
Oui, c'est. Hein. Il était vraiment à fond sur le départ.
Voilà. Bon, c'est pas non plus. Course.
Il a lui-même résumé sa
voilà.
course au départ.
Il a fait une erreur sur la fin.
Alors, c'est dommage parce qu'à un moment, il a doublé Hamilton et Schumacher. Malheureusement, c'était pendant la pub. J'avais les boules, franchement. Je disais, merde, putain.
Le dépassement de Kimi Raikkonen depuis le début de
la saison. C'est pour
il en a fait deux en plus.
Le strike de Kobayashi, c'était pendant la pub aussi.
Oui.
Oui, non, mais le pire, c'est que le strike de Kobayashi, c'est au moment où il lance la pub.
À 10 secondes près, on le voyait en direct.
Ouais.
Et donc, voilà. Bon, ouais, course solide, sans non plus être extraordinaire. Ouais, ça devient une habitude, en fait, avec Kimi.
Mais c'est pour ça que je l'ai mis si bas, moi. C'est que voilà, c'est une bonne course, mais pas extraordinaire. J'avais rien de spécial à dire sur sa course.
Après, je veux dire, moi, en tant que fan, je suis content par rapport à son retour qui soit à ce niveau-là. Ah non, voilà, on aimerait mieux, c'est clair, on aimerait mieux.
Oui, mais bon là ça va, il se bat avec Massa.
Oui, c'est...
Ah, encore une fois, il paye la comparaison avec Grosjean. Hein.
Ah bah oui, ah là...
C'est quand même constaté qu'en course, Grosjean fait quelque chose
de très
fort. Voilà. Et que Kimi Raikkonen, bah oui, il a du mal, il a eu un peu de mal à suivre, on a l'impression.
Non mais c'est-à-dire que Grosjean, c'est très haut, très bas, entre guillemets. Kimi... il est médian, quoi. C'est-à-dire que, voilà, c'est un peu, tu sais, la Weber,
oui,
la
Benoît. Mais en ce moment, Grosjean, c'est très haut. C'est juste très haut, en ce moment.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, au niveau des places.
C'est fini l'époque où t'avais des espoirs et que c'était très bas. Maintenant, c'est tout
bien. Mais non, mais je veux dire, au niveau des places, il a été très bas. C'est à ce niveau-là que je veux dire.
Ouais, mais au niveau des places, d'accord. Oui.
Alors que au niveau Kimi de la prestation, plus, c'est voilà, chose. Alors que Kimi est plus sur c'est plus régulier, je dirais, au niveau des places. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est sur une place de départ, ça évolue assez peu.
Ou en fonction de ce qui se passe devant.
Ou en fonction de ce qui se passe.
Voilà.
Dans ce cas-là, passons à la cinquième place. Il a marqué 707 points. Ça s'est joué à 2 points près. Faut savoir qu'ils ont jamais été éloignés de 15 points, hein. À peu près, même dès dimanche soir, c'était très près. Une heure avant la fin des votes, ils étaient même à égalité.
Et puis j'ai voté.
Non, il n'y a pas que toi qui a voté.
Oui, non, mais j'ai voté après 18h, je te dis. Donc,
oui, mais il n'y a pas que t'as pas mis 2 points d'écart entre.
Oui, mais je pense que moi j'ai voté, que derrière il y a un fan de Kimi qui a voté et qui l'a mis plus haut et que ça s'est réduit un peu, voilà. Mais pas suffisant.
C'est Sébastien Vettel. Je lui ai donné 8 points, Dino lui en a donné 10. Germain, tu l'as même donné 12.
Alors Germain, explique-nous pourquoi.
Ben il a pas fait une trop mauvaise course, voilà. C'est.
Ben surtout qu'en plus il a un petit pet sur son aileron. Il a à un moment donné, je sais plus derrière quelle voiture, mais c'est pas derrière Massa où ça se frôle et il y a un bout de son aileron qui s'en va, donc c'est un petit bout. Ouais. Mais on a déjà vu que ça pouvait être relativement handicapant pendant les courses. On se rappelle de Grosjean, je crois que c'est en Espagne, où au départ il perd un bout d'aileron et bah c'est l'aileron avant, ça a beaucoup de conséquences sur l'aérodynamique de la voiture. Et là, ça a peut-être été un peu pareil, donc du coup, oui, il fait une belle course en terminant sur le podium, c'est bien. Et toi, Shinji?
Non, moi, c'est pas. Je dirais une course solide de sa part, mais comparativement peut-être à, par exemple, à Kimi dont je viens de parler, lui partant de plus haut, forcément, ça ne pouvait être que mieux. Après, je l'ai pas. On l'a pas beaucoup vu, par exemple, en course, même si c'est un peu normal par rapport à ce qu'il y avait autour. Non, course solide.
Mais sur l'ensemble, battu par Weber.
Ah oui, sur l'ensemble du week-end, ça, clairement. Germain, non, sur Vettel.
Bon, je vais le dire.
Justement, Germain, c'est qui ton pilote préféré?
Eh ben, en ce moment, c'est.
On dirait Trulli.
Non, il est plus nulle part, lui. Non, c'est Romain Grosjean.
En même temps, Trulli, il a jamais été vraiment quelque part.
Bah, si, c'était lors d'une course à Monaco en 2004.
Ouais. Ouais, mais il y avait
c'est un endroit précis.
Voilà. Circonstances.
Dans ce cas-là, allons à la quatrième place, 770 points. J'ai donné 12 points. Germain lui en a donné 10. Dino lui en a donné 15. C'est peut-être. Enfin, il y en a une autre, mais c'est une belle surprise de ce Grand Prix, c'est Felipe Massa.
Ouais.
C'est... Non, c'est pas une surprise, c'est la continuité, c'est passé dans le Grand Prix chez nous.
Oula.
Non, sincèrement, c'est plus surprenant, Massa. La Ferrari va mieux. Mmh. Il est pas loin de.
Ouais, mais le concrétise, c'est déjà bien. Oui. Voilà,
voilà.
C'est son meilleur résultat depuis le début de l'année.
Il va mieux.
Et il reprend espoir.
Oui.
Ah, bah là, oui, on commence à dire que peut-être que Massa, il pourrait peut-être le garder l'an prochain.
Il est pas mort.
Finalement, comme il y en a beaucoup qui commencent à le dire là, parce qu'il y a eu l'annonce de Weber, que si ça se trouve, on attend beaucoup de changements. Et va pas y en avoir un seul.
Bah surtout que là Weber est chez Red Bull.
Weber est chez Red Bull.
Ils ont dit que pour le moment Perez il était trop jeune.
Oui.
Vettel ça viendra pas tout de suite, ça va venir en 2014.
Non. Hamilton sait que c'est pas, ça arrivera pas.
C'est pas prévu. Et disons qu'il y a certaines personnes qui s'y opposent chez Ferrari, qui sont pas vraiment d'accord. Enfin, il y a une personne qui s'y oppose.
Pour pas le nommer, Fernando. Ah. Oui.
Et là ils prennent Grosjean chez Ferrari.
Oh, ce serait beau, ça.
Le truc, la grosse surprise.
tu rêves, là.
Non, je pense sincèrement que Ferrari, là, j'ai quand même l'impression, avec l'annonce de Weber et compagnie, que les rumeurs sur Vettel en 2014 sont peut-être pas si infondées que ça. Et peut-être que pour Ferrari, bah, le mieux, c'est d'attendre un an et de voir fin 2013 et d'essayer de choper Vettel à ce moment-là.
Malgré le changement de réglementation, qui pourrait laisser supposer qu'entre 2013 et 2014, il y aura peut-être pas non plus énormément de changements.
Oui, mais en même temps, ils ont Massa qui est dans la maison depuis 2006.
Le mec, il a de l'expérience, il sait quand même régler une voiture, il connaît très bien Ferrari, très bien les ingénieurs. Vaut mieux peut-être, justement, avant 2014, garder Felipe Massa, qui connaît tout le monde, pour pouvoir bâtir sur 2014. Et après, 2014, faire venir Sébastien Vettel, qui, un champion du monde qu'il est, sera galvanisé autour. La grande question, c'est qu'en pense Felipe Fernando Alonso. Et sinon, en dehors de ça, voilà, après, c'est... Parce que je pense que ça dépend, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les cartes elles dépendent vraiment de ce qui se passera en 2014. Si vraiment, sincèrement, s'ils font prolonger Massa, c'est qu'en 2014 ils préparent quelque chose. Donc ils préparent Vettel, Alonso en 2014. Si par contre ils prennent un autre pilote, bah c'est peut-être effectivement parce que Vettel ça sera pas tout de suite et qu'Alonso a mis son veto.
Mais sinon,
ouais, là, Pérez,
c'est vraiment bien, c'est même pour Ferrari parce que c'est vraiment à ces places-là qu'on attend Felipe. C'est vraiment très très bien pour lui.
Puis symboliquement, le jour de son meilleur résultat, il permet à la Scuderia de gagner deux places au classement constructeur.
Oui.
De retrouver deuxième, quoi. Donc, mine de rien, c'est super important.
On va passer au podium.
Ouais.
Il a marqué 863 points. Je regarde le tableau.
C'est l'homme invisible.
La
oh non, on l'a vu. Oh oui qu'on l'a vu. Surtout nous en France.
On l'a vu au départ.
On a cru un moment qu'on ne le verrait plus. Et pouf. En fin de course, ah bah tiens, il est sixième. C'est Romain Grosjean. C'est bien sûr. Oui, il a fini sixième, oui.
Oui, il a bien fini sixième.
Donc, que j'ai mis troisième, hein, comme Germain. Et Dino, tu ne l'as, entre guillemets, mis que quatrième. Je dis entre guillemets. Hein. Oui, mais il a mis Massa. Et franchement, voilà.
C'est vrai que je m'extasie pas non plus devant la course de Grosjean. Il fait une belle course. Il fait une très, très belle course. Maintenant, il se retrouve quasiment au début de la course à repartir derrière 24e et comment s'appelle avec des pneus frais et à faire une course à un arrêt. Ça, on l'a déjà vu faire. Donc du coup, voilà, il termine 6e, c'est bien. On en espérait
fois,
pas
c'est
tant.
Dommage, flingue
son accident.
Il flingue un peu sa course sur l'erreur qu'il fait en qualif. Parce que s'il fait sa Q3 normalement, il arriverait peut-être à se qualifier mieux. Enfin, c'est toujours le même problème avec Lotus, quoi.
Oui.
Mais avant même de sa qualification, ce qui flingue sa course, c'est Di Resta qui apparemment a une chute de pression dans son pneu, ils savent pas trop pourquoi, qui se déporte et qui tape apparemment, en se déportant, on casse l'aileron de Grosjean, d'après ce que j'ai compris.
Ah oui, donc, parce qu'il a dû changer.
Après, c'est sûr que sinon, il est pas à ce moment-là, s'il se qualifie mieux sur la grille, il est pas à ce niveau-là. Maintenant, de si en si, on peut très bien dire, tiens, s'il n'avait pas mangé des raviolis lundi dernier, il n'en sera peut-être pas là. c'est le principe d'un battement d'ailes de papillon et compagnie. Hein, donc.
Très belle, mais quand même, voilà, très belle remontée au final.
Oui, c'était beau. Il n'a pas fini trop loin de Raikkonen non plus.
Non,
tant...
Il est à 7 ou 8 secondes.
Ouais, 7 secondes.
Et encore, il perd du temps sur la fin. Parce qu'il est en bout
de relais. Peut-être même moins que ça. Ouais, c'est ça, oui. Même moins de 7 secondes.
Je me rappelle à un moment donné, il était à 3 ou 4 secondes de Raikkonen. Je me dis, tiens, il va peut-être pouvoir le rattraper. Et puis en fait, non, en y réfléchissant, comme il était tout le temps en stratégie décalée et qu'il faisait des relais plus longs que les autres, forcément, sur la fin, il a commencé à gérer les pneus. Mais ça, du coup, tu te dis, quand tu vois sa course, tu te dis, même en partant 9e, parce qu'il part 9e grâce à la pénalité de Hülkenberg, même en partant 9e, s'il arrive, bon, il fait un mauvais départ, mais s'il arrive à rester sur la piste, pas avoir de problème et compagnie, il peut prétendre au podium.
Ah oui.
Parce que le rythme dont il a fait preuve avec les pneus et compagnie, ça pouvait faire très mal en course.
Allez, on va passer au duo, enfin, parce que vous doutez bien que, bon, parmi les deux premiers, il y a eu peu de doutes, mais qui va finir premier?
Alonso.
Il a marqué 1290 points. Nous l'avons tous les trois mis deuxième. Et ça tombe bien, puisque finalement il a fini deuxième.
Et je crois que tout le monde l'a mis deuxième.
C'est Fernando Alonso. Non, mais franchement, peut-être que certains, je pense, l'ont mis premier. Ça se comprend. Finalement, il a pas manqué grand chose.
Mais non, il pouvait pas gagner. Non, il pouvait pas gagner, pas possible.
Ah oui, parce que c'était pas une erreur de stratégie, mais non, c'est vrai.
Non, je pense pas que c'était une erreur de stratégie.
Est-ce que tu penses pas quand même que il aurait pas pu faire tenir ses pneus un petit peu plus longtemps?
Parce que alors certes, il aurait pu faire tenir ses pneus un peu plus longtemps au début. Il y a plusieurs problèmes. D'abord, il y a le problème des pneus tendres, où ils étaient plus lents en pneus tendres qu'en pneus durs. Ça, c'est dû à la pluie et au manque de préparation. Donc c'est pour ça qu'ils ont commencé la course en pneus durs et leur but c'était vraiment de sur les deux premiers relais en dur de prendre le plus de temps possible. Après c'est ce qu'explique Gary Anderson. Le truc c'est qu'au moment où Weber rentre très rapidement, Weber est déjà dans les temps d'Alonso. Donc qu'est-ce que fait Alonso? Est-ce qu'il reste en piste en sachant que lui va perdre peu à peu en performance, donc du coup va permettre à Weber de revenir, avec la possibilité peut-être, ce que dit Gary Anderson de la BBC, de perdre la première place, et dans ce cas-là, il perd la première place au début de la course. Donc moi, je pense sincèrement que quoi qu'il arrive...
Pour toi, c'était inéluctable.
C'était inéluctable. C'était la mauvaise stratégie, c'est pas de partir en pneu, c'est pas de faire quelques tours de plus sur le premier relais, c'est de partir en pneu dur, c'est d'avoir mal préparé son travail le samedi matin en ne travaillant qu'avec les pneus durs sans travailler avec les pneus tendres, ou en tout cas en n'essayant pas de trouver la meilleure performance avec les pneus. Le problème, il est là, c'est une erreur de travail le samedi matin. Après, en course, ils ont pris des choix en connaissant très bien la voiture.
En même temps, erreur.
Et dès le départ,
ça paraissait tellement peu probable d'avoir utilisé ces pneus-là dimanche. Vu le week-end qui s'annonçait.
Et en plus, ils ont été surpris par les pneus. Je crois qu'Alonso l'a déclaré aujourd'hui. Il dit, on a commencé la course. Massa fait 14 tours avec une voiture qui est pleine en carburant. Mmh. Il fait 14 tours sans trop de problèmes. Donc nous, on se disait, il reste 15 tours. La voiture, elle va être légère. Ça devrait faire. Mmh. Et en fait, ils ont jamais réussi à exploiter les pneus. Parce que tout simplement, ils ont jamais roulé le vendredi en ayant les pneus, les charges de carburant et compagnie.
En tout cas, ça reste très positif quand même pour la voiture. Parce que Silverstone, c'est quand même un circuit... peut-être pas le plus significatif, mais le fait par exemple qu'il y ait des tests à Silverstone, c'est pas pour rien, notamment pour ces grandes courbes rapides. Et c'est plus une Trapanel, on peut le dire, cette voiture. C'est plus du tout une Trapanel.
Même si je pense que, encore une fois, c'est un week-end particulier parce que les équipes ont pas pu travailler.
Oui.
On panique un peu pour McLaren.
C'est quand même une bonne voiture pour gagner à Silverstone. C'est...
Oui, il faut une bonne voiture, mais on voit très bien quand même ça depuis le début de saison que si tu te prépares pas bien du vendredi au dimanche, tu gagneras pas le dimanche. Je pense qu'il faut attendre l'Allemagne et voir si vraiment en Allemagne ça marche bien dans des conditions normales pour pouvoir dire la Ferrari elle est bonne. Maintenant, c'est vrai que c'est certain que c'est plus la Trapanel qu'ils avaient au début de saison.
Ah non, plus du tout.
Mais je pense que la Red Bull est quand même meilleure aujourd'hui. Mmh. Et je me demande d'ailleurs si Red Bull n'ont pas privilégié en course peut-être un meilleur compromis en capitalisant justement sur une éventuelle avance, ce qu'ils ont montré à Valence. Mmh. Donc ils ont peut-être cherché à avoir un meilleur compromis en se disant, de toute façon, quoi qu'il arrive, comme on a de l'avance sur les autres, on n'y perdra pas trop. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu piégeur ces conditions-là.
Mmh. Germain, tu as rajouté sur Alonso?
Non, tout a été dit.
Merci Germain.
Dans ce cas-là, passons au premier. Donc, bien évidemment, vous avez compris, c'est Mark Webber qu'on a tous les trois.
Ah,
non, tu l'avais déjà cité, ça pouvait pas être lui.
Ah oui, excuse-moi.
Il est doué, mais il ne se dédouble pas. Il a marqué donc 1446 points. Bah, très belle course.
Oui, il a attaqué au bon moment.
Oui.
C'est bizarre, j'ai entendu personne dire qu'il avait été opportuniste après ce Grand Prix. Ah, c'est vrai. Je sais pas, moi, en Europe, tout le monde a dit dans les commentaires, ah là, quel opportuniste, il a bénéficié des circonstances. Là, Weber, on lui dit rien. Étonnant. Non, je fais mon sauvage. Ne cherchez pas. Je suis fatigué, c'est
voilà,
pas ça.
Voilà, il gagne juste sur l'usure des pneus, puis voilà, c'est...
Mais lui-même l'a dit, hein. Il a dit au départ quand il met les pneus tendres, je pense qu'on va pas le revoir. Et puis mon ingénieur me dit à la radio, Alonso, il arrive pas à faire grand chose avec ses pneus. Donc bon, d'accord, mais je me dis, Alonso, c'est un vieux briscard. Bon, il est peut-être en train de ménager ses pneus et compagnie. Puis quand j'arrive à 2 secondes, je vois qu'il est pas en train d'attaquer. je me dis, ça se trouve, il a peut-être vraiment des problèmes. Et là, à ce moment-là, je me dis, ah, c'est bon pour moi. Et c'est ce qu'il a fait, quoi. Il a été prudent, patient. Il a été au bon moment à cet endroit-là. Et la chance, parce que ça reste quand même de la chance, elle se suscite.
Alors, ça m'a fait marrer, c'est justement au moment où il a le dépassé, je sais plus qui, sur TF1 a fait une remarque sur, oui, est-ce que ça va bien se passer, le fait de doubler Alonso, c'est toujours compliqué. Parce que Mark Webber, c'est quand même le type qui a dépassé le même Alonso dans le Rédillon, hein. Donc, parler des doutes sur le fait, oui, est-ce qu'ils vont se rentrer dedans? Non, c'est bon, ils se connaissent bien,
Ils sont expérimentés.
Voilà, ils sont expérimentés. Je sais plus qui a sorti ça, mais ça m'a choqué sur le coup.
Bah, je pense que c'est surtout, c'est que Alonso, il peut être dur à dépasser.
Oui, c'est ça. Mais
maintenant, Alonso, il est dur à dépasser.
C'est pas sauvage non plus.
Il est à condition égale, mais là, il avait.
C'est pas mal
de
l'ado.
Deux pneus et compagnie,
C'est certainement un des pilotes les plus. Bon, il va se défendre. Mais c'est sans doute un des pilotes les plus safe, hein, je veux dire, c'est à partir du moment où tu le dépasses.
Mais s'il n'a pas de raison derrière de défendre, surtout face à Weber, s'il n'a pas de raison de se défendre.
Oui, voilà. Vous voulez un dernier petit mot sur la course de Weber, qui est le deuxième pilote à marquer deux victoires, hein.
pourra quand même noter que ce cher Weber, donc il a 9 victoires dans sa vie, le pilote de Formule 1. Il a quand même 2 victoires à Monaco, 2 victoires à Silverstone. Il a que des victoires en Europe et il a donc dans des circuits quand même historiques et compagnie. Et en dehors d'Europe, ses seules victoires, c'est le Brésil.
Oui, que quand même, voilà.
Ah, donc c'est quand même un pilote de quand on arrive sur des vrais circuits. C'est quand même un pilote qui carbure bien.
Mais on peut même se demander si est-ce que cette année ça va être tu te souviens il y a 2 ans on avait dit oui c'était peut-être faut qu'il en profite parce que c'est peut-être la dernière chance qu'il aura.
Ouais mais c'est cassé l'épaule.
Oui. Mais là il s'est rien pété. C'est peut-être il va peut-être avoir sa deuxième chance peut-être. Il
gagne. Moi gagnera, vivant, jamais.
Je dis pas qu'il gagnera à la fin mais pour l'instant. Voilà, ça, c'est peut-être faut qu'il en profite cette année. Voilà.
D'ailleurs, sa prolongation de contrat n'y est peut-être pas anodine.
Oui. Sans doute.
Parce que sans prolonger le contrat, il y a quand même chez Red Bull la notion de se dire il va peut-être partir l'année prochaine. S'il est champion du monde, il va se barrer avec le numéro 1 ailleurs. Donc certes, nous, on sera champion du monde, mais on perdra notre champion du monde.
Oui.
Donc, peut-être qu'ils vont plutôt avoir envie d'avoir un champion du monde qui restera chez eux, genre Sébastien Vettel. Donc peut-être qu'il y aurait eu tendance de la part de Red Bull à se dire on va plutôt favoriser Vettel sur la fin du championnat. Donc là où peut-être Marc a peut-être cédé et a décidé de signer, c'est en disant, d'ailleurs il a très vite dit après la course, c'est une victoire qui assure mon avenir, qui me permet d'être en Formule 1, parce qu'il a peut-être fait le calcul aussi dans sa tête en se disant cette année je vais peut-être avoir ma chance de me battre pour le titre. Si je signe pas, ils vont peut-être plutôt privilégier Vettel pour aller chez Ferrari où je serai pas privilégié et où j'aurai peut-être pas chance de me battre pour le titre, sauf problème pour Alonso. Autant que je reste chez Red Bull où là au moins j'ai une chance concrète de me battre pour le titre cette saison. Donc je pense que peut-être que c'est pas vraiment anodin si ça se fait.
Alors au classement, au niveau des pilotes, c'est toujours Alonso qui mène 138 points devant Weber 102. Hamilton 96, Vettel 95, Raikkonen 93 et Grosjean 87.
Donc, je vais adorer écrire la lettre pour le diplôme à la fin de l'année.
Donc les écarts quand même commencent à se décanter quand même. Ouais. Parce que il y a quand même près de 50 points entre Alonso et Grosjean.
Une hiérarchie.
Au niveau des équipes, Red Bull est toujours devant, 197 points, devant Lotus 180, Ferrari 163, je crois qu'au classement du SAV, il gagne aussi une place. Ouais. Et McLaren 146. Notez que Mercedes est déjà à 99. Hein, donc là encore, c'est pareil. Il y a quand même ça se décante. Dans l'autre classement, c'est aussi Alonso qui est premier, 129 points. Et Mark Webber, deuxième, 116 points. Vettel 100. Hamilton 92. Raikkonen 83. On a encore Rosberg à 75 et Grosjean à 61. Et là encore, les écarts commencent à se creuser.
Et Button à
50.
Voilà. Button, il a 79 points de retard sur le leader.
Oui.
C'est quasiment 3 Grands Prix, ça commence à être un petit peu...
De toute façon...
Il faut qu'il se ressaisisse vite.
Si tu prends le... Enfin, quand tu vois le nombre de bulles, il s'est déjà pris 3 bulles. Hein, c'est-à-dire, même 4 fois. 4 fois, il a marqué 0 points. Pour aller les derniers champions du monde, quand même, c'est rare que...
Ouais.
En général, c'est 2, 3, parfois 4 quand c'est disputé. Donc peut-être que si cette année c'est disputé, il y aura peut-être un peu plus de droit à l'erreur. Mais pour des pilotes comme Rosberg, même Grosjean ou Button, même Raikkonen, qui a été régulier mais qui n'a pas encore haussé son niveau de jeu, on peut croire quand même que ça va peut-être se jouer sur les 4 premiers. C'est dans le sens où ouais, ça se décante vraiment. Chez les constructeurs, Red Bull...
T'aimes bien le mot décanter, si
oui, mais j'aime bien, c'est parce que c'est ça me paraît très clair. Ça me paraît très clair dans la tête quand je dis que ça se décante.
C'est ton petit côté alcoolo.
Oui, tout à fait. Spécial.
Vous voulez savoir, Shinji boit énormément.
Tout à fait.
Il est pas fan de Kimi pour rien, justement.
À chaque fois que Kimi fait un tour, je bois un verre.
Voilà. Voilà.
Donc je suis toujours triste un peu à Spa. Parce qu'il y a moins de...
Disons que la chance pour lui, c'est que comme du coup il y a moins de tours à Spa, c'est qu'il arrive, il est un peu moins bourré.
Oui, mais
enfin la fin de la course, donc il peut vraiment profiter de la victoire.
Oui, comme Kimi gagne, forcément, je reprends une bouteille. Donc au final,
c'est à dire peut-être lié en fait.
En fait, je suis deux fois plus bourré à Spa.
Non, mais ça se trouve, c'est pour
ça
qu'il
est content en 2009 alors.
Mais c'est pour ça qu'en fait Kimi il gagne bien à Spa. C'est que lui il fait pareil que toi. Chaque tour il prend un verre. Donc à Spa il arrive, il est moins bourré.
Donc il gagne. Chez les constructeurs, Red Bull est à 216 quand même. Ferrari est deuxième, 152, mais c'est très serré puisque Lotus est à 144, juste devant McLaren qui est à 142. Ils ont marqué que 5 et 4 points sur les deux dernières courses. J'ai été clair ?
Oui.
Et là encore Mercedes, ils sont à 98, donc il y a quand même un bon step. Mais j'ai pas utilisé décanté cette fois-ci.
Tu nous as ressorti de step, fini.
Oui. Et là, on va passer à un nouveau gap dans l'émission.
Oui.
J'ai plein de mots, j'ai sorti mon dictionnaire de synonymes. On va passer au fait marquant. Donc, quel était selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Europe 2012? Vous avez été 105 à voter, merci. Le retour de Schumacher, 27,62%, ça fait 29 votes. Valence, 2 points, une course passionnante.
Oh merde.
34,29, 36 votes. Milieu, moi. Et Alonso, Grande Espagne, 38,1%, 40 votes. Donc, c'est à moi.
Non.
Ah ben, non. Ah oui, merde.
Non, Alonso, Grande Espagne, c'est toi.
Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est à Germain.
Ouais.
Oui, donc moi, j'avais voté pour Schumi, le retour de Schumi.
Ouais, t'étais minoritaire, toi.
Oui, je suis minoritaire.
Mais donc,
et sur ce voilà, week-end, tu retiens
ce week-end.
Eh bien, sur ce week-end, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Le dépassement de Bruno Senna au culot.
C'est bien ça. Alors, qu'est-ce que je vais dire? La confirmation Alonso. Ferrari Alonso,
je mets
Ferrari Alonso, ouais.
C'est un peu la suite de ce que j'ai mis. Il y a Alonso Grande Espagne, la confirmation Ferrari Alonso. C'était quoi de semaine ouais. avant? Ah non, c'était pas Alonso. C'est bon.
Vive le roi!
Ah, qu'est-ce qui va me rester?
T'es pas trop mal dans le choix quand même.
J'hésite.
Weber, futur champion du monde.
Dommage, le temps est passé, donc on a seulement mettre deux choses.
J'hésite entre Weber et la pluie.
Ah, la pluie, c'est pas mal.
J'ai envie de mettre incroyable 2 points. Weber gagne sur le sec.
Alors ça, c'est... J'essaye d'avoir les boîtes des deux, puis en fait, je vais les perdre.
C'est du... Ouais, c'est... ça va être tout ou rien, ça.
Oui, parce que du coup, tu vois, tu te concentres pas assez sur l'un ou sur l'autre. Donc en fait, ton truc va perdre de la force.
Peut-être.
J'aurais dit incroyable Weber, d'accord, mais...
Ou je vais tout gagner. C'est voilà.
Oui, mais
sincèrement... Je vais soit me prendre une grosse branlée, soit ça va être un gros succès.
Là, sincèrement, je n'y crois pas. Parce que je pense que t'as pas pris quelque chose d'assez fort, soit sur Weber, soit sur la pluie. T'as trop cherché à manipuler les gens.
Oui. Donc, pour cette semaine, pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, nous vous proposons comme fait marquant... Incroyable, Weber gagne sur le sec, la confirmation Ferrari et Alonso, ou bien le dépassement de Bruno Senna au culot.
Pour voter, c'est sur fanf1.com, pour ceux qui nous écoutent via iTunes. C'est l'article dans la magazine.
Ils sont passés par Podcast France,
à droite.
Hein, pour eux aussi.
Ou aussi par Podcast France, où vous pouvez, je vous rappelle, voter pour nous. Hein, il y a une petite section vote, donner 5 étoiles et donc... pour le moment, on est 3e, on est sur le podium, on est médaille de bronze,
ouais.
On a 22 votes. Mais les premiers s'envolent, donc ça serait
oui.
bien de nous permettre d'être
c'est-à-dire que la
un
semaine dernière, on était très serrés, donc on se disait, ouais, c'est bon. Et non, les autres aussi se sont envolés. Je sais pas, eux aussi, ils ont dû faire la promo pour leur truc.
Voilà, donc allez sur podcastfrance.fr pour d'abord pour découvoir tous les podcasts.
Il y en a vraiment plein, c'est très divertissant.
Et puis pour voter pour nous, bien sûr.
Non, mais voilà. n'allez pas ailleurs.
Vous pouvez aussi aller sur iTunes, nous mettre 5 étoiles. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez 5 étoiles partout.
Voilà.
Parce que le SAV de la F1, c'est...
Le rite des podcasts.
Bravo, Shinji.
Je m'en suis souvenu.
On a eu un grand débat la semaine dernière entre le rite et les Rolls-Royce.
Oui.
Je crois que je l'ai coupé au montage, mais c'était un grand débat.
Et dis-nous, nous allons passer au concours.
Ouais.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Alors, le concours Top Position, je vous rappelle la question du précédent concours, enfin du précédent Grand Prix, qui nous était proposé par Globen, et qui était, ma foi, très bonne.
Oh, arrête!
Et la question était la suivante. Combien de titres de champion du monde de Formule 1 ont-ils été remportés par des pilotes portant le nom, ou plutôt le prénom, d'un drapeau national? Et nous avions un tout petit peu aidé en vous disant que ça avait un lien avec la destination qui était la nôtre ce week-end, à savoir la
Grande-Bretagne, dont le drapeau s'appelle l'Union Jack.
Et donc la réponse, c'est combien de champions du monde, tu dis ?
Alors, en champion du monde, on trouve Jack Brabham, qui paradoxalement n'était pas britannique.
Donc 3 titres pour lui.
3 titres.
Et puis il y a Jacques Villeneuve.
Ah, alors on a eu un débat avec Dino justement sur ça. Parce que bon, après ça, je sais pas quelles sont les réponses que nous ont donné les.
On a eu de tout.
Les voilà.
Ah,
parce
moi,
que techniquement c'est l'Union Jack, c'est pas l'Union Jacques.
Oui, mais c'est la traduction en français, donc ça fait Jacques quand même.
Ça peut être accepté, mais dans ces cas-là, est-ce qu'on n'accepte pas aussi Jackie?
Alors, je tiens à dire que dans comment ça s'appelle, dans le message de Globen, il faisait justement référence à Jackie Stewart en disant que il aurait pu l'accepter, enfin qu'on aurait pu l'accepter, mais que on dit pas l'Union Jackie.
Mais déjà.
D'accord. Donc ça veut dire que du coup, on peut très bien considérer que l'aspect sonore compte. Donc on peut très bien dire l'Union Jack.
Oui, mais si on prononce mal.
Sans forcément dire Jack.
Mais oui. Jack Stewart, en fait, s'appelle John.
Oui, tout
donc,
à fait.
Donc je sais pas. Je te laisse voir quelle question tu souhaites qu'on accepte. Je ferai le tri.
Bon, Jackie Stewart, je pense que non, puisque comme l'a dit, en plus son nom c'est John en fait.
Ouais.
Bon, j'ai envie d'être coulant, et en effet, tout le monde n'a pas forcément un bon accent anglais. Hein, parce que normalement, si on est pointilleux au niveau de l'accent, théoriquement, hein, on devrait pas l'accepter. Mais on va être cool, on va accepter Jacques.
Hein, ouais Jack.
Ça veut pas dire donc que tu vas gagner. Hein.
Non, on accepte hein. Que les réponses où on nous a donné la réponse 4.
Non, on accepte aussi 3.
Aussi 3, voilà. D'accord. Donc en fait, on accepte toutes les réponses.
Voilà, tu vois, ça change rien. Après,
on vient quand même chez Jude. On vient quand même chez Jude prouver que cette question était foireuse.
Et attention, on ne sait pas si un drapeau s'appelle Alain, Nicky, Nelson ou Fernando.
Je crois pas non plus.
Hein. Non, parce que sinon, on pourrait aussi se faire...
Et en même temps, sincèrement, on n'a pas envie de vérifier.
Voilà, on n'a pas envie de vérifier, mais si vous ne sortez... Oui, mais vous savez qu'au banc de la Dèche, le drapeau s'appelle le machin truc démon. Bon, ben, on s'en fout. Hein, voilà.
Alors, Chizzy, je vais te proposer les questions. Tu l'auras compris, tu ne pourras pas avoir l'assistance
non, bah non.
De Germain pendant cette...
Non, mais je fais de mauvaise foi.
Alors, première question. Combien de circuits cette saison ont un virage qui porte le nom de parabolique?
D'accord.
Ensuite, question suivante. Quelle est la distance de la piste qui sert pour une discipline automobile peu populaire dans nos régions sur le circuit de Hockenheim? Un indice, ça se trouve dans le dernier virage.
Oula.
On peut pas faire plus clair comme indice, c'est-à-dire.
Oui.
Ensuite, quel constructeur de Formule 1 est le seul à avoir remporté un de ses titres constructeurs, donc, à l'issue d'un Grand Prix d'Allemagne? Et enfin, épeler courrier... Épeler correctement Dutch Vermogens Beratung. À savoir que la réponse est dans la question.
C'est quoi ce machin?
Dutch Vermogens Beratung.
C'est qui?
Alors, c'est la bonne question, on va chercher. Hein.
T'as dit quoi? Dutch?
Dutch Vermogens Beratung.
Ah!
Je sais pas, ça doit vouloir dire. Ça se trouve, c'est un gros mot.
Mais non, mais je sais
non,
ce
non.
que.
Ça veut dire écouter le SAV de la F1 en allemand.
Oui, 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 je sais ce que c'est. C'est le truc, tu sais, qu'il y a sur la casquette à Choumi.
Ah d'accord, ok.
Oui. Ça me dit pas ce que c'est.
Bah, c'est ce qui est gris, ça.
Oui, oui.
Franchement, tu sais quoi, j'ai envie de prendre celle-là. Elle est pas compliquée, hein. Théoriquement, si vous trouvez des photos...
Ah non, oui, voilà.
Voilà.
Voilà, on vous a donné un bel indice.
Voilà, un bel indice.
C'est sur la casquette.
C'est sur la casquette à Choumi.
Donc tu prends celle-là.
Je vais prendre celle-là. Nos auditeurs vont faire un peu d'allemand.
Tu te rends compte quand même que dans 15 jours, je vais devoir vérifier.
Mais oui, comme ça, tu me demanderas qu'en plus, comme ça, tu me diras pas oui, alors est-ce qu'on accepte ça ou ça? C'est toi qui vérifieras l'orthographe. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon.
Ouais. Alors, je tiens à dire que je veux l'orthographe précise. Je vais pas me faire chier. Sinon, je te donne l'adresse mail et tu te démerdes.
Ah non, on précise bien. On veut l'orthographe précise.
À la virgule près.
Il n'y a pas de virgule.
Il est tiré.
On vous demande, après, si vous voulez, dans la réponse, vous pouvez nous dire ce que c'est. Mais nous, ce qu'on veut, c'est l'orthographe.
Donc, la question pour le Grand Prix d'Allemagne, hein, vous avez 2 semaines pour y répondre, c'est tout simplement épeler correctement. Je m'excuse hein, pour nos amis allemands. Alexandre, tu m'excuses auprès de ce charmant peuple. Épeler correctement Dutch Vermogens Beratung.
Wow.
Un indice, ça se trouve sur la casquette de Michael Schumacher. Et nous allons féliciter pour cette astucieuse question. Parce que je pense qu'il connaît très bien Shinji et qu'il se dit « Ah, ça c'est une question... »
C'est un truc à la con.
Shinji, ça va lui plaire. Nous allons féliciter Gus Gus hein, qui propose cette question. Bravo Gus Gus, tu as gagné... ton nom sur un petit bout de papier pour la fin de saison. Et nous rappelons que même si vous gagnez, vous pouvez participer plusieurs fois au concours de ta proposition. Donc nous allons saluer Steve qui nous a posé la question sur le seul constructeur de Formule 1 qui avait remporté son titre
c'est
de constructeur
à l'issue
d'Allemagne.
Ferrari, oui.
Non.
Williams?
Non.
McLaren?
Non.
Matra?
Non.
Tyrell?
Non. Benetton?
Non.
Lotus?
Lotus.
Ouais.
Au Grand Prix d'Amérique 165. Ouais, non, dis pas ouais, Germain, tu l'as trouvé au bout de 15
minutes. Mais écoute,
Lotus quand même.
Oui, mais vous avez coupé son montage.
Non, ça se laisse.
Dommage.
Ensuite, nous allons saluer Adelin. Mm-hmm. J'ai posé la question sur quelle est la distance de la piste qui sert pour une discipline automobile peu populaire dans nos régions sur les circuits à Hockenheim. C'est le Dragster.
Oui, il y a une piste de Dragster, ouais.
Et c'est une piste qui mesure un quart de mile, donc 402 mètres.
Mmh. Wow.
Et enfin, nous allons saluer Germain.
Salut.
Qui nous avait posé la question sur combien de circuits cette saison ont un virage qui porte le nom de parabolique. Et la réponse était Shinji pour voir qui mesurait.
J'en ai deux sûrs. Bon, ça, y a pas de souci.
C'est quel?
Hockenheim et Monza. Bien évidemment.
Bravo.
Est-ce qu'il y en a un autre? Naturellement, on voit ces deux-là, mais. Non, Germain.
En tout cas, au calendrier actuel, je
non, m'apprends. J'ai pas cherché ailleurs que sur les circuits qu'il y avait cette saison. Donc...
Et il y en a que deux?
Il y en a que deux.
Ah ouais.
Donc voilà, bravo pour vos contributions. Je rappelle que pour répondre, c'est l'adresse concours@savf1.fr. Voilà, vous pensez à nous poser une question sur. Donc là, ça sera sur
la
le
Hongrie.
Grand. La Hongrie. Alors. Je vais me permettre,
oui,
de donner un thème subsidiaire.
D'accord. Donc vous aurez choix, la Hongrie.
Vous aurez choix, soit entre la Hongrie,
ou
soit entre les trucs beaux, magnifiques, merveilleux, incroyables, séduisants.
Le Hungaroring.
Le thème, c'est la beauté.
Voilà.
Vous pouvez s'associer.
Vous pouvez mixer les deux. Hein, c'est toujours possible. Hein, vous êtes libre. Voilà. La Hongrie ou la beauté.
Voilà, donc vous nous épelez...
Et je précise bien, dans la beauté, ça ne veut pas dire le porno. Non, parce que... non, parce que c'est la Hongrie, hein, c'est la Hongrie.
Ouais, elle a pas mal.
Voilà.
Des petites filles.
J'adore, Suzy, le lien que tu fais entre beauté. Donc, les gens bons, c'est des gens du porno. Et les gens moches, c'est les autres. Donc, comment savoir si vous êtes beau ou pas? C'est pas difficile. Si vous faites du porno,
vous êtes beau.
Si vous faites pas de porno, vous faites ça en amateur, chez vous, tranquille avec votre copine ou votre copain, c'est que vous êtes moche.
On va parler du Grand Prix d'Allemagne qui aura lieu à Hockenheim cette année. Et...
Ouais.
Si vous ne vous intéressez pas à la course, peut-être souhaiterez-vous faire autre chose. Et pour cela, rassurez-vous, Germain est là.
Oui, je sais.
Et qui de mieux que Germain pour nous parler
du Grand Prix d'Allemagne.
Merci.
Oh, on l'a fait, j'ai dit.
Ouais.
Incroyable. Donc, cette chose à faire pendant le prochain Grand Prix, si on n'est pas fan de Formule 1. Donc, on peut suivre Vivant Dimanche avec Drucker.
Ça n'a pas déjà été fait, ça, j'ai dit.
Non, puis en plus, dimanche 22, c'est la fin du Tour de France, donc il n'y aura pas Vivant Dimanche.
Oh ah.
Ah.
Donc on peut suivre la fin du Tour de France.
On peut suivre la fin du Tour de France, tout à fait.
Voilà.
Sauf si t'avais prévu de dire qu'on suit la fin du Tour de France plus tard.
Non, parce que là, pas, j'ai pas mis.
Ah, bon, ça va.
Voilà.
Donc après, on peut se remettre des résultats du bac.
C'est vrai. Mais là, faut c'est vraiment vrai. Être...
C'est un peu tard, il faut vraiment avoir pris une grosse cuite pour pouvoir s'en remettre le 22. Mais...
oui. Ou alors, on peut aussi assister aux Jeux Olympiques de Londres et voir Nasser à la TIA tirer à la balle trappe.
Ça commence le 21
et il me semble que c'est la semaine d'après.
Oh,
oh, c'est ballot, tu perds un truc, tu vas devoir trouver un truc à la fin.
Bah alors, achetez les billets pour les JO pour voir Nasser à la TIA tirer à la balle trappe.
C'est ouvert le dimanche?
Oui, mais de toute façon, c'est au marché noir, donc le dimanche, ça doit marcher.
Ah oui. Mmh.
Donc, on peut également aussi préparer ses valises pour partir en vacances. Mmh. Donc, vous pouvez aussi vous remettre de la nuit d'avant, puisque vous avez suivi le Grand Prix de Mosport, une course d'American Le Mans série. Mmh.
Ça, c'est pas mal, ça.
Ah oui.
J'ai cherché.
On sent le fan d'endurance. Mmh.
Oui.
Enfin, d'American Le Mans série, c'est pas pareil.
Donc, bah, vous pouvez...
J'attends, j'essaie de faire mon expert, s'il te plaît. J'ai des fans d'endurance avec lesquels me réconcilier.
Oui. Oui.
Donc vous pourrez également vous remettre de la choucroute que vous avez mangée ce midi-là.
Ah ouais, une choucroute le 22 juillet. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, bon, il fait pas super chaud, mais c'est pas vraiment la saison de la choucroute, quoi.
Oui, mais en même temps, chez lui, tu sais bien qu'il y a des gens qui sont bizarres, donc c'est pas impossible qu'il y ait un gars qui fasse une choucroute.
C'est vrai.
Et donc, pour finir, ça, c'est là que je vais un peu développer.
Ah, il y a quelque chose sur l'endurance.
Oui.
Oui. Donc, vous pourrez également aussi adhérer à l'association Pescarolo 2011, car détester la F1 ne veut pas dire détester l'endurance. Qu'est-ce que c'est l'association Pescarolo 2011? C'est en fait une équipe en endurance française qui est en ce moment en quelques difficultés à cause d'un partenaire qui n'a pas tenu ses promesses, on va dire. Et donc, en fait, là, ils sont en délicatesse niveau budget. Et donc, déjà, c'est sûr, ils ne disputeront pas les 6 heures de Silverstone, là, en fin août. Et en fait, l'association Pescaro 2011, en fait, ça propose aux fans, en fait, d'investir dans, d'une certaine façon, dans l'écurie, dans l'équipe. Et donc, l'adhésion, hein, c'est annuel, c'est 10 euros. Et pour 100 euros, vous êtes un partenaire de l'écurie. Donc, il y a un mur dans les stands avec votre nom ou le nom de votre société.
On devrait faire ça, Shinji. Ah, t'imagines, 100 euros, le SAV de la F1, partenaire et sponsor de Pescarolo.
Et donc, sinon, il y a un site web, une adresse.
Oui, donc c'est pescarolo.com, tout simplement. Et donc, si vous adhérez, vous aurez une carte de membre, puis des cadeaux. Vous pourrez participer à des événements, tout ça. Par exemple, chaque année, chaque fin d'année, il y a un rendez-vous avec les fans. Donc, on vous accueille, ils vous accueillent dans leurs locaux, ils vous font visiter.
Tout ça pour 10 euros.
Oui, ouais, tout ça pour 10 euros.
Ouais. Non, puis c'est vrai que c'est une grande équipe. Cette année, on a vu au Mans, c'est-à-dire que ça n'avait pas été facile du tout.
Déjà, cette année, je crois qu'ils n'étaient pas sûrs d'être là. Oui. Ça, c'est par rapport à l'année dernière, où, il y a deux ans, ouais. Vous n'avez pas participé au Mans, et où ils avaient réussi, à quelques semaines du Mans, à remonter un projet, c'est ça?
Voilà.
Et là, cette année encore, c'était difficile de
le faire. Oui, c'était pas compliqué, c'était délicat.
Bah c'était cette bonne raison, surtout la dernière.
Oui, la dernière était une très bonne raison. On va finir sur les pronos.
On prévient par contre, Henri Pescarolo, qu'on prend 150% sur chaque
bon. Il a pas besoin de
ça. Écoute, Riton, à un moment donné, faut être réaliste, on t'offre quand même plusieurs milliers d'euros, on veut des retombées, quoi. Oui. À boule le blé, hein. Allez, hop.
Mais en plus, l'année dernière, j'étais au 6 heures du Castellet pour leur première course depuis leur retour.
Ouais.
Et ils ont gagné!
Oui, c'est ça qui est le pire, c'est de voir qu'ils aient autant de mal, alors que c'est une, franchement, une super bonne équipe. C'est incroyable.
J'étais au 7e ciel, là.
Alors, pour ce Grand Prix d'Allemagne.
Je sais pas, j'hésite, Shinji. Je verrais bien Felipe, mais en même temps, je me dis.
Choumi!
Est-ce prudent?
Non, mais pourquoi pas un Choumi?
Oui, c'est pas ça. Moi, Ferrari, pourquoi pas?
Choumi!
Ils ont une bonne voiture, mais. Je suis obligé de rester fidèle à ce que j'ai dit la dernière fois. Je pense qu'on va se bouffer du Red Bull, au moins jusqu'en Hongrie, donc Red Bull.
Donc vous aurez compris pour Germain, c'est...
Un jeune Allemand.
Bah dis-le, Choumi.
Moi j'irais plutôt Vettel d'ailleurs chez Red Bull. À domicile, il le veut tellement.
Ah ouais, c'est vrai.
Là, je pense sincèrement, si Weber il gagne au lieu de Vettel en Allemagne, je pense que Vettel il va moins digérer le contrat de 2013. Tu vois,
Marc, Vettel est plus rapide que toi, tu peux confirmer?
On arrive à la fin de cette émission. On rappelle que donc la semaine prochaine, la semaine prochaine, il y a un magazine. Donc si vous avez des questions. Et on y répond. Parfois, on répond complètement à côté sur des questions double embrayage et tout ça. Mais on essaie d'y répondre quand même.
Alors là, j'en profite quand on parle du double embrayage. J'ai reçu un mail qui complétait un peu parce qu'apparemment Gus n'a pas été très clair, mais en même temps c'est de ma faute parce que je les ai un peu balancés face au sujet sans les prévenir avant. Généralement j'envoie les questions à l'avance donc ils ont le temps un peu de bien préparer et compagnie pour vous fournir quelque chose de propre et tout, de très clair, de bien travailler avant. Et là ça je les ai un peu pris au dépourvu. Donc le double embrayage c'est tout simplement donc il y a deux palettes et de mettre sur une palette les vitesses impaires et sur l'autre palette les vitesses paires, ce qui permet tout simplement d'aller beaucoup plus vite et de moins solliciter.
Ah, on n'était pas très loin, on parlait du double palette.
Donc en fait, quand vous passez la première, vous appuyez par exemple sur la palette de gauche en passant la première, puis quand vous passez la deuxième, vous passez sur la palette de droite, puis la troisième, c'est à nouveau la palette de gauche et compagnie. Oui. Ce qui fait que du coup, il y a un double système d'embrayage, ça va beaucoup plus vite, les vitesses se passent beaucoup plus vite et apparemment, il y a aussi une usure qui est beaucoup moindre des pièces puisque l'embrayage chaque embrayage est sollicité deux fois moins.
Oui.
Donc voilà. Et donc au départ, tout ce qu'avait expliqué Gus Gus sur le fait que ça soit une sécurité, que ça permet de doser vraiment et compagnie, se vaut aussi.
Oui.
Juste un éclaircissement.
Très bien, bah merci à lui. Donc si vous souhaitez poser des questions, n'oubliez pas l'adresse, donc c'est répondeur@savf1.fr.
On en profite aussi si vous voulez. Alors là, on a du monde pour la Hongrie, on a du monde pour la Belgique, et si on arrive à avoir quelqu'un de nouveau qu'on n'a pas eu cette saison. Pour l'Allemagne, on ira jusqu'en Belgique en ayant à chaque fois eu que des invités différents.
Donc ça fait un nouvel invité pour l'Allemagne.
Donc, dans 15 jours, si vous êtes disponible le 22, 23, 24, le 24 au soir, si voilà. vous êtes disponible, ou même le, s'il faut, on s'arrangera pour faire ça le 23, et vous êtes jamais venu dans l'émission cette saison, n'hésitez pas à vous porter candidat. Ça nous permettra de maintenir notre espoir, cette incroyable série de 12 personnes différentes en 12 Grands Prix. Ça serait extra.
Voilà.
D'ailleurs, on pourrait même compter ceux de l'an dernier, tu vois.
Oui, bon, bon.
C'est vrai qu'on regarde.
Ils sont déjà cette année, c'est déjà pas mal.
Ouais.
Germain, merci.
Y a pas de quoi.
Donc, je rappelle hein, l'adresse hein, que tu as citée. Hein, donc, si vous êtes intéressé hein, par l'association Pescarolo 2011, c'est donc www.pescarolo.com. Donc, vous allez retrouver toutes les informations hein, sur comment souscrire à l'association. Hein, bien évidemment, il y a tout ce qu'il faut
forum.
Sur le site. Ah, excellent.
Il y a un forum pour les femmes. Les fans, oula. D'ailleurs.
Oui, il y a un forum pour les femmes. Parce que Pescarolo fait aussi dans ce genre de rencontres.
D'ailleurs.
Écoute, faut se diversifier hein, pour avoir des revenus. Hein, c'est.
D'ailleurs, on peut déjà vous annoncer que Shinji sera partenaire avec son site Porn Shinji.
J'avais pas
vu. Ou Shinji Porn.
D'ailleurs, j'ai oublié de dire quelque chose. C'est un petit appel au constructeur, enfin au motoriste, puisque le motoriste actuel, le Pescarolo, n'est pas très fiable. Donc il faudra un nouveau motoriste, par exemple si Renault est intéressé.
Bah, ils vont récupérer pur. Oh non mais ça pur, c'est un truc qu'on va revoir en endurance.
Oui, par exemple.
Je sais que personne voudra deux en Formule 1.
Mais oui, non. S'ils veulent une bonne équipe pour se mettre en valeur, Pescarolo est fait pour eux.
Donc on vous rappelle, l'F1 sur internet, c'est sûr.
FanF1.com.
C'est bien. Hein.
Bien sûr.
Et comme toutes les semaines, nous vous laissons sur ce moment d'intense réflexion de Dino.
Bon, ciao.
Non, c'est toi qui réfléchis. Je dis, moi, c'est simple, c'est juste toi qui réfléchis. Ouais. Voilà, c'est. En plus, tu vas voir, c'est sincèrement le. Je me suis pas foulé. C'est un peu les vacances. Je me suis pas foulé. Puisque le proverbe de cette semaine, c'est un proverbe qui, bien évidemment, concerne la météo j'allais dire Silverstonaise, mais de Silverstone. je sais pas comment on appelle les habitants de Silverstone. Est-ce que seulement il y a des habitants à Silverstone? Nous ne savons pas.
Oui, non, ils sont en parapluie.
Ah, je crois que c'était les marmottes.
Oui.
Ayons quand même une petite pensée pour les gens de Silverstone, puisqu'il y a un proverbe à Silverstone qui dit « À Silverstone, ne te découvre pas d'un fil ».